Chers collègues, je vous propose de commencer notre conseil. J'ai reçu des pouvoirs. Chantal Clément sera représentée par Sébastien Durançois, Astrid Tussaud par Édouard Abon, Hélène de Villiers par Joachim Verdier, Nicole Lesage par Jean-Michel Lorca, Aline Triolet par Pascal Marniquet, Rémi Grand par Damien Gaudier jusqu'à son arrivée, Pierre Marandon par Christian Demongin et je représente Benoît Mathis jusqu'à son arrivée. Il devrait arriver dans un instant. Je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose donc de désigner Édouard Abon comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il est Édouard là ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Mes chers collègues, le compte administratif soumis à votre examen traduit à l'euro près l'exécution du budget 2016. Il présente cette année quelques caractéristiques notables. D'abord, un excédent de 2 730 000 euros. Ensuite, des dépenses d'équipement atteignant le montant de 11,7 millions, soit le niveau le plus élevé depuis le début du mandat. Je rappelle pour information que ce montant était de 7,4 millions en 2015. Des taux d'imposition stables. Et je rappelle qu'en 2016, les taux de la ville n'ont pas augmenté pour la 11e année consécutive, ce qui est en soi une performance appréciable, vous en conviendrez. Notre capacité de désendettement s'est encore améliorée puisqu'elle a été ramenée à 3,94 années, soit le niveau le plus bas depuis 2001. Enfin, une baisse de 3,5% de nos dépenses réelles de fonctionnement, hors FPIC, et je précise que ces résultats sont atteints alors que, je le rappelle, l'État a continué à réduire ses dotations et à augmenter ses prélèvements sur les collectivités. Concrètement, en 2016, pour notre commune, la DGF a ainsi été diminuée de plus de 1 million d'euros et notre contribution au FPIC a connu un prélèvement supplémentaire de 378 000 euros. Dans ce contexte très contraint, notre section de fonctionnement a fait l'objet, vous le comprendrez, d'un suivi particulièrement attentif. Ainsi, en matière de dépenses, ce sont 1 800 000 euros qui ont pu être économisés par rapport au prévisionnel du budget primitif. L'essentiel de cette somme, soit 1 420 000 euros, provient d'économies sur nos charges de gestion courante grâce à une attention de tous les instants. Et je veux évidemment remercier non seulement les élus concernés, mais également les services municipaux qui ont œuvré en ce sens. De plus, les charges de personnel ont été parfaitement maîtrisées, avec une réalisation à hauteur de 99%, soit une économie de 238 000 euros. Enfin, grâce à la poursuite de notre gestion active de la dette, nos charges financières ont été moindres que prévues initialement. Les frais financiers de la collectivité ont ainsi diminué de 35 000 euros supplémentaires. Par ailleurs, l'an dernier, certaines de nos recettes ont été plus importantes qu'attendues. En matière fiscale, la ville a perçu 239 000 euros supplémentaires. Ce montant s'explique par des régularisations portant sur les exercices antérieurs en matière de fiscalité professionnelle, mais aussi à des rôles complémentaires pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. En matière immobilière, la taxe additionnelle aux droits de mutation a permis une recette supérieure de 111 000 euros. S'agissant de la taxe de séjour, celle-ci a généré un produit complémentaire de 31 700 euros. Il est important de noter que la taxe de séjour est corrélée à l'activité touristique qui tend à croître régulièrement. Les droits de stationnement ont été supérieurs de 82 000 euros au montant prévu. Les travaux du parking centre-ville qui se sont déroulés sur une partie de l'année 2016 avaient entraîné une estimation prudente de ce produit lors de la définition du budget primitif, et les résultats sont plus favorables que ce que nous attendions. Pour les dépenses d'équipement de la commune, nous avons mobilisé un budget global de 11 450 000 euros en 2016. À noter que ce montant est supérieur à la moyenne annuelle d'investissement de la collectivité, observée depuis 2008, qui était de 11 millions par an. Le compte administratif nous permet de rappeler les opérations réalisées l'an dernier et Christine nous en donnera le détail dans un instant. Je citerai simplement les plus importants chantiers qui ont été conduits en 2016. La rénovation du parking centre-ville s'est achevée à l'été dernier et a représenté sur l'exercice un montant de 3 200 000 euros. Nous disposons désormais d'un parking totalement modernisé qui offre aux riverains, aux chalands et aux touristes des conditions d'accueil très satisfaisantes. Dans les prochaines semaines, de nouvelles initiatives en matière de signalétique viendront encore renforcer la visibilité de cette offre de stationnement au cœur de la ville. La reconversion de l'ancien parking Lalo a également été menée à bien pour un coût sur 2016 de 1,5 million sur un total de 1,9 million pour l'ORU. La réalisation est conforme à nos attentes, l'espace est fonctionnel et le paysage urbain s'en trouve grandement embelli. Les études concernant le musée et les premières interventions de réhabilitation du château Perrier ont mobilisé 1 140 000 euros. Le budget 2016 a également financé les travaux de voirie pour 2 200 000 euros, mais aussi des aménagements pour la prochaine phase du quartier Rosemont à hauteur de 428 000 euros, des interventions dans les écoles ou encore la requalification du terrain synthétique du stade Paul Chandon pour la somme de 219 000 euros. Ces investissements, d'un montant global important de plus de 4 millions d'euros, ont été réalisés tout en maintenant le caractère très sûr de notre dette. Comme annoncé lors du vote du budget primitif, notre encours a progressé, passant de 34,08 millions à 35 millions. Pour autant, dans le même temps, notre capacité de désendettement a connu une nouvelle amélioration, baissant de 4,36 années en 2015 à 3,94 années en 2016. Ce ratio mesure, je le rappelle, le temps nécessaire à la ville pour rembourser son encours si elle y consacrait l'intégralité de sa capacité d'autofinancement. Inférieur à 8 années, il traduit une gestion particulièrement prudente de la dette. Sa nouvelle amélioration souligne aussi nos marges de manœuvre en matière d'autofinancement. S'agissant du solde de l'exercice 2016, après adoption du compte administratif, je proposerai d'affecter ce résultat au budget 2017 lors du vote de notre décision modificative numéro 2. La liste des opérations ainsi financées est longue. Je ne reviendrai dans cette intervention que sur les principales. En termes de régime indemnitaire du personnel, l'année 2017 est atypique. En effet, elle intègre à la fois les sommes versées en mars dernier au titre de l'année 2016 et celles versées tout au long de l'année 2017, de façon mensualisée du fait de la mise en place du nouveau régime indemnitaire dit RIFSEP. Ce chevauchement sur le même exercice budgétaire conduira à l'inscription d'une somme de 535 000 euros. Christine Mazzi pourra vous apporter des précisions si vous le souhaitez. Des crédits complémentaires d'un montant de 417 000 euros seront également consacrés au musée. Ils permettent pour partie de financer la dépose d'éléments qui, au fil des ans, ont été rajoutés au bâtiment initial du château Perrier. Je pense à des faux plafonds, à des structures d'habillage, par exemple. Il vous sera aussi proposé d'inscrire 400 000 euros pour accompagner la rénovation du cinéma Le Palace. Une délibération spécifique permettra d'examiner cette aide municipale au cours de notre séance du conseil municipal. Et je rappelle qu'il y a déjà pas loin d'une vingtaine d'années, lors de la reprise du palace par ses propriétaires actuels, la ville avait déjà, avec la région et le département, contribué à la modernisation de cet équipement important. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'affectation du résultat, des sommes seront destinées à des opérations menées conjointement avec la communauté d'agglomération. 290 000 euros pour participer à la rénovation des plateformes du Millésium, la ville ayant pour finalité d'y transférer la fête foraine. Le développement de l'activité touristique commande en effet de repenser l'aménagement du Jard. Aujourd'hui, sa mission principale est de servir de parking, alors que cet espace pourrait être valorisé à l'avantage des Sparnassiens et des touristes. Une étude d'urbanisme est en cours. Elle nous permettra de mieux cerner le potentiel de cet espace à valoriser au cœur de la ville. 135 000 euros pour financer la part des travaux relevant du propriétaire nécessaire à la future pépinière d'entreprise qu'accueilleront les locaux municipaux de l'ancienne mairie 2, place Bernard Stasi. D'autres interventions bénéficieront également de crédits, parmi lesquels le confortement du pont sur le Cubry situé sur la partie de l'avenue Jean Jaurès en cours de rénovation pour 79 000 euros, l'aménagement du parking du gymnase Henri Viette et de la voirie le desservant pour 60 000 euros, le remplacement d'une partie des gradateurs du théâtre Gabriel Dorzia pour 31 000 euros. Enfin, une signalétique dynamique complémentaire pour le parking que j'évoquais tout à l'heure et un complément de 75 000 euros sera destiné à la participation de la ville à la future SEM servant de support au projet de ballon captif. Avec ce ballon, unique en Champagne, le Jard va devenir un nouveau site d'accueil où l'on pourra trouver, au-delà de cet équipement, offrant une vue sans équivalent sur les coteaux champenois et sur la capitale du Champagne, un accès facilité à tous les modes de transport touristique, vélo, vélo électrique, petit train, bus. Avant de vous laisser la parole, mes chers collègues, je passe le relais à Christine Mazzi pour qu'elle complète mon intervention par un exposé précisant les principaux indicateurs et rappelant les principaux chantiers du compte administratif 2016. Je vous remercie de votre attention. D'accord. Je vous propose effectivement de passer la présidence de la séance, une fois ce premier exposé fait, à Morissette, notre doyenne, je le rappelle parce qu'elle est en pleine forme, pour assurer la présidence du compte administratif comme chaque année.
Je passe la parole à Madame Mazzi. Merci Morissette. Donc nous allons par un petit diaporama présenter le compte administratif en reprenant bien évidemment des éléments qui ont été présentés par Monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne ce compte administratif, donc le résultat de clôture après reste réalisé est excédentaire de 2,7 millions, tel que ça figure sur le schéma dans le petit encadré rouge qui se trouve en haut à gauche. Donc, c'est la différence entre les recettes totales et les dépenses totales. Donc, ce différentiel se décompose d'une part par un excédent de fonctionnement après reste à réaliser, pardon, qui est de 7,2 millions, et un déficit d'investissement, là aussi après reste à réaliser, de 4,5 millions. Comme vous le savez, les prévisions budgétaires sont équilibrées en dépenses et en recettes. Le résultat d'exécution découle donc des écarts qu'il y a entre les prévisions et leur réalisation. En dépenses, l'exécution, bien sûr, ne peut être qu'inférieure aux prévisions. Elle va donc générer un excédent. Au compte administratif 2016, 2,6 millions d'euros de crédits n'ont pas été consommés en dépenses et 31 800 euros de recettes complémentaires ont été comptabilisés. Sont mentionnés également dans ce graphique ce qui figure tout en bas en gris, ce que l'on appelle des dépenses, des écritures d'ordre. Il s'agit des amortissements donc qui sont sans impact sur le résultat global puisqu'il n'y a pas de mouvement de trésorerie de par les amortissements. Donc l'analyse de l'exécution qui va suivre ne porte que sur les écritures réelles. Donc nous allons voir dans un premier temps la section de fonctionnement en commençant par les recettes réelles de fonctionnement. Donc ce graphique présente les principaux postes de recettes par chapitre comptable. Donc en orange figure le budget 2015, en vert foncé le budget 2016 et en vert clair le réalisé 2016. Donc en 2016, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 43,3 millions d'euros contre 44,5 millions en 2015. On voit bien la différence donc là encore entre ce qu'il faut regarder en comparant les deux années, donc le vert clair et le orange. Donc, parmi ces recettes, la principale ressource reste bien sûr les impôts et taxes, comme on le voit sur le graphique, qui représentent 65% des recettes. Viennent ensuite les dotations et participations pour 26% des recettes réelles de fonctionnement. Les autres ressources additionnées, donc les autres produits de gestion courante, les ventes de produits fabriqués et puis les produits exceptionnels, représentent au global 9% des recettes réelles de fonctionnement. Donc globalement, les recettes réelles de fonctionnement constatées au-delà des prévisions s'élèvent à 1,3 million d'euros, donc qui se répartissent principalement avec 851 000 euros supplémentaires au titre de produits exceptionnels. Il s'agit en fait de la comptabilisation de cessions dans un compte qui apparaît ici parce que les biens vendus n'étaient pas... inscrits au patrimoine, ne faisaient pas partie des immobilisations. Donc, ils sont intégrés ici dans ces recettes, mais repasseront ensuite au chapitre 24 en investissement. Plus 478 000 aussi au titre du produit fiscal, que nous allons voir dans la diapo suivante. Et puis, un peu plus de 200 000 euros sur des rattrapages de comptabilisation dans la gestion de régie, notamment en ce qui concerne la réglementation. Donc la diapo suivante va nous détailler la composition des impôts et taxes. Donc en haut à gauche, le camembert nous montre la répartition des impôts et taxes par nature de recettes, donc la fiscalité, le stationnement, la taxe sur l'électricité, les droits de mutation et les autres taxes. Et en bas à droite, le graphique en bâton nous montre l'évolution des recettes depuis 2008. Donc le chapitre relatif aux impôts et taxes est excédentaire par rapport au prévisionnel de 478 000 euros. Brièvement, je reviens, mais ça a déjà été précisé par Monsieur le maire dans son discours d'introduction. Donc 48 000 euros supplémentaires par de la fiscalité complémentaire, notamment la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 82 000 euros de droits de stationnement, la taxe additionnelle aux droits de mutation, et puis la taxe de séjour, qui a elle aussi augmenté et qui montre l'évolution du tourisme. Alors, en ce qui concerne les dotations et participations, donc la courbe bleue représente la DGF et la DSU. Donc globalement, la DGF 2016 est en diminution d'un peu plus d'un million par rapport à 2015. Donc 810 000 euros qui correspondent, 810 000 euros de moins bien sûr, qui correspondent à la contribution au redressement des finances publiques. 234 000 euros qui correspondent à l'écrêtement de 3% qui est appliqué aux communes dont le potentiel fiscal est supérieur à 75% du potentiel moyen. La DSU, par contre, est stable. En ce qui concerne, par contre, les compensations fiscales, c'est la courbe rouge sur le graphique, elles sont en baisse de 14%. Notamment, cette baisse constatée résulte de la suppression en 2015 de l'exonération qui était accordée aux personnes de plus de 60 ans de la taxe d'une exonération au niveau de la taxe d'habitation. Pardon. Donc cette exonération a été réinstituée sur 2017 et donc cette suppression fera l'objet d'un lissage ultérieurement. Les autres participations sont en diminution, c'est la courbe verte tout en bas, mais l'évolution de ces autres participations est liée bien sûr aux participations des partenaires sur les différents projets municipaux. Alors, après les recettes, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 35,5 millions d'euros. Donc, elles sont en baisse par rapport à 2015 de 2,5%. Il est à noter que cette diminution prend en compte le prélèvement complémentaire du FPIC, du fonds de péréquation. Donc, si on retire cette variation du FPIC, les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué en réalité de 3,5%. Alors, si on étudie les principales recettes, donc les principales dépenses sont bien sûr les charges de personnel, qui représentent 51% des dépenses. Donc, elles diminuent de 4,8%. Donc, par contre, il faut analyser cette diminution en la recoupant avec l'augmentation des charges de gestion, puisque cette baisse est liée en partie à la mise en place ou au transfert d'agents au niveau des services communs. Donc, bien évidemment, les charges de personnel diminuent puisque les agents ont été transférés, mais parallèlement, les charges de gestion vont augmenter puisque l'agglo refacture à la ville d'Épernay le montant des heures passées pour les agents pour la ville. Les charges de gestion représentent 22% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc, globalement, ces dépenses, les dépenses non consommées par rapport au budget s'élève à 1,8 million d'euros. Donc, une grosse partie vient du fait que la fusion de l'agglo n'a pas permis, justement, à l'agglo de pouvoir facturer un certain nombre de charges à la ville, ce qui fait que les dépenses n'ont pas encore été entamées. Donc, 238 000 euros également au titre des charges de personnel par rapport à ce qui a été vu après. Alors, ça peut paraître 238 000 euros, ça peut paraître important au niveau des charges de personnel, mais il faut savoir quand même que le budget a été réalisé à hauteur de 99%. Donc, le budget était bien, avait bien été prévu par rapport à la réalisation. Et puis, on peut noter aussi également 35 000 euros pour des charges financières, soit une réalisation à 95%. Alors, le graphique suivant présente l'évolution des dépenses de fonctionnement par chapitre. Donc, ce qui est à noter, comme on le disait tout à l'heure, c'est surtout la diminution importante des charges de personnel, la courbe bleue que vous voyez, qui s'explique en partie donc, par le transfert des agents, d'une partie des agents de la ville à l'agglo, donc au sein des services communs, et donc les charges que l'on retrouve ensuite dans le chapitre 011, au niveau des charges de gestion. Alors justement, en ce qui concerne les effectifs, donc la baisse des effectifs est significative entre les deux exercices. Je tiens à préciser qu'ici, l'effectif qui est indiqué, il s'agit d'un effectif d'équivalent temps plein. Donc le transfert des personnels des services communs vers le PCI. Donc je vous rappelle qu'au 1er janvier 2016, Le service finance, le service contrôle de gestion, le service marché public, le service juridique et le service achat a été mutualisé. Au 1er septembre, c'est le service des ressources humaines et de l'informatique. Donc au total, ce sont 25 agents qui ont été transférés, donc principalement issus de la filière administrative. Donc ça explique dans un premier temps la baisse des charges de personnel. Ensuite, le maintien de l'effort de rationalisation à l'occasion des départs à la retraite, puisqu'en 2016, 14 agents sont partis à la retraite, 7 n'ont pas été remplacés. Donc il s'agit principalement d'agents issus de la filière technique. Leur non-replacement a donné lieu soit à de l'externalisation, des missions correspondantes, soit au niveau des services des bâtiments ou au niveau de l'entretien des locaux. Et puis, des mobilités de personnel, par le biais de mutations ou de demandes de disponibilité, ont donné lieu à des réorganisations au sein des services et n'ont donc pas toujours conduit à recruter un remplaçant. Et puis, ça s'explique aussi par la vacance de certains postes qui sont en cours de recrutement à l'heure actuelle. Donc, en ce qui concerne les budgets annexes, donc le principal ou le plus important, c'est le budget chauffage urbain qui est en hausse de 7% par rapport à 2015. Donc les consommations ont augmenté entre 2015 et 2016. Le prix, par contre, a baissé. Cette augmentation de dépenses réelles peut s'expliquer par une minoration qui avait été pratiquée en 2015, une minoration de 200 000 euros qui était relative au rattachement du mois de décembre 2014. Puisque, sans entrer dans les détails, mais pour facturer les clients, les services attendaient bien sûr la fin de l'année, de façon à avoir les consommations globales sur l'année, mais également le prix définitif. Donc cette année, un rattachement n'a pas été opéré, puisque les services ont pu obtenir le montant pour l'année 2016, et donc facturer l'année 2016 totalement sur 2016. Donc il n'y a pas eu de rattachement pour le mois de décembre. Et puis l'écart entre le budget et la réalisation, cette fois, se justifie par le prix d'appel au BP 2016 qui avait été de 38 euros, alors que la réalisation a été de 30,05 €. L'autre budget est celui de la cuisine centrale. Donc là, bien évidemment, il s'agit des dernières écritures de clôture du budget. Donc ce qui explique un budget 2016 très, très faible par rapport au réalisé 2015. En ce qui concerne les parkings, la diminution de 4% par rapport au réalisé 2015 s'explique par il n'y a pas eu de maintenance puisque le matériel est neuf. Donc, bien évidemment, les dépenses ont été moindres que prévu. Et puis, en ce qui concerne le camping, les dépenses sont en diminution de 3% par rapport au réalisé 2015 avec un taux d'exécution de 89% du budget. Alors, la section d'investissement. Donc, en section d'investissement, on trouve bien sûr les travaux et les équipements, les subventions et les dotations qui sont liées à ces travaux, ainsi que les mouvements qui sont liés à la dette. Alors, concernant les dépenses réelles d'investissement, elles sont constituées pour l'essentiel par les dépenses d'équipement, environ 70%, et le remboursement du capital de la dette, donc les 30% restants. En 2016, les dépenses d'équipement sont à peu près de 19 millions d'euros, dont 7,2 millions de reports. Elles sont constituées des travaux que nous réalisons en direct et des travaux que nous finançons au travers de subventions d'équipement. Le remboursement de la dette, donc, qui se trouve tout en bas, et en capital, lui, varie bien sûr en fonction du profil du remboursement des emprunts. Il a été réalisé à hauteur de 100%. En ce qui concerne les recettes d'investissement, donc les recettes réelles d'investissement d'un montant de 10,9 millions d'euros plus 3,7 millions d'euros de report sont constituées d'une part par les emprunts pour un montant de 8,6 millions d'euros, dont 2 millions d'euros de refinancement. Les subventions d'investissement qui sont liées bien sûr au projet d'investissement. Donc, tout à l'heure, dans le discours de présentation, ont été listés un certain nombre de projets qui ont été mis en place. Donc, les participations sur Paulbert pour 624 000 euros, la poursuite du versement qui sont liés aux opérations de l'ORU. La place Bernard Stasi pour 111 000 euros. Il s'agissait du solde de la subvention des travaux réalisés. Et puis, des participations des amodiataires aux travaux de parking. Il y a ensuite des dotations des fonds de réserve et puis des fonds divers. On retrouve donc dans ce chapitre l'affectation obligatoire du résultat de 2015. Pour rappel, il était d'1,8 million d'euros, mais également le FCTVA, donc le fonds de compensation de TVA. Et puis, on trouve tout en bas les crédits de cession, donc les produits des ventes, qui, eux, bien sûr, ne donnent pas lieu à réalisation. Alors, en ce qui concerne les dépenses d'équipement, donc le montant de nos dépenses en 2016 est de 11,75 millions d'euros, comme ça figure sur le dernier bâton du graphique, contre une moyenne de 11,05 millions d'euros depuis 2008. Donc, ce graphique illustre la politique volontariste de la ville de maintenir un niveau d'équipement important, et ce, même dans une période où les dotations diminuent, et que les prélèvements augmentent. Donc, le financement de nos équipements en 2016 a été fait pour 67% par de l'autofinancement, 20% par des subventions et 13% par de la dette. Donc, quelques photographies illustrant les investissements. Donc, le parking centre-ville, qui le montant global de la réhabilitation était de 4,8 millions d'euros. La réhabilitation du parking Lalo, donc des travaux de réhabilitation là pour un montant de 2,1 millions d'euros au global. La transformation de l'ancien linéaire commercial dans le cadre de l'ORU. La réfection complète, la rue de Bernon, donc la réfection a commencé. La réhabilitation du réseau d'assainissement et le remplacement du réseau et des branchements d'eau potable ont été effectués. D'autres rues, donc la rue de Bourgogne, l'allée d'Artois, la rue Renéère et l'impasse du Château. Je laisse passer les diapos. La rue des Huneaux. Enfin, une partie, oui, de la rue des Huneaux. Merci de la précision. Le pont de Marne, qui a été bien embelli, puisque la ville a modernisé à la charge de la ville. Donc, il s'agissait de prendre en charge l'éclairage, la signalisation du pont et les accès pour les personnes à mobilité réduite. Pardon ? Ah, c'est une bonne question.
Elles sont installées depuis mardi dernier.
Ouais.
Oui, elles sont installées depuis mardi dernier.
Elles étaient en train d'être replantées, de reconstituées. Donc le projet, donc le musée du vin de Champagne en haut, et puis en bas, il s'agit du centre de conservation. Le nouveau terrain synthétique au stade Paul Chandon. L'aménagement d'un satellite de restauration à l'école maternelle horticulture. En fait, c'était la maternelle horticulture était le dernier établissement scolaire qui ne bénéficiait pas d'un satellite de restauration. Donc voilà les grands projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Donc, en ce qui concerne l'encours de la dette au 31 décembre, donc, l'encours de la dette de la ville et de ses annexes est de 35 millions d'euros, comme ça vous a été indiqué tout à l'heure, donc qui tient compte, bien sûr, des reports de 2016 sur 2017 pour un montant de 1,5 million. Donc, notre dette est saine, je vous le redis encore une fois, puisque notre encours est à 43% sur du taux fixe, à 48% sur du variable, et puis le reste sur des produits à barrière et les 4% de report des reports de 2016. Donc, le taux moyen de la charge de notre dette est de 1,76%. Donc la capacité de désendettement de la ville, donc ce schéma présente la capacité de désendettement de la ville, c'est ce qui vous a été indiqué tout à l'heure. Donc ce ratio vise à mesurer la durée théorique de désendettement de la commune. Donc ce ratio est passé à 3,94 années, hein, ce qui veut dire que si la ville consacrait l'intégralité de sa capacité d'autofinancement à rembourser sa dette, cela prendrait, on va dire, presque 4 ans pour rembourser l'intégralité de nos emprunts. Donc la ville d'Épernay se situe depuis 2005 à un niveau inférieur aux autres communes de même strate pour cet indicateur. Et cet indicateur révèle le signe d'une gestion prudente selon l'économiste Klopfer. Klopfer. Comme vous voulez. Pardon, économiste libéral. Alors, en ce qui concerne les dépenses réelles des budgets consolidés, donc 39% de nos dépenses sont réalisées dans le domaine de l'aménagement urbain. C'est ce qui figure en bleu sur le camembert. Donc, dans l'aménagement urbain, on trouve notamment la voirie et les dépenses des services techniques municipaux. 22%, ce qui est en rose, sont consacrés au logement, au social, à la famille et à la santé. Donc, il faut noter ici que la part du CCAS n'est prise en compte qu'à hauteur de la subvention d'équilibre nécessaire, soit 3,2 millions d'euros sur 2016 en investissement et fonctionnement. Donc, pour mémoire, le budget consolidé du CCAS, fonctionnement-investissement, est de 7,5 millions d'euros. La culture et les sports se voient attribuer 22% des dépenses réelles, et l'enseignement et la formation 12%. Voilà, j'en ai terminé.
Merci, Christine.
Mesdames, messieurs, avez-vous des observations ou explications à demander à Monsieur le maire sur la gestion ? Monsieur Angers demande la parole, Monsieur le maire.
Merci, Madame la Présidente. On va essayer de pas trop s'écarter. Nous avons eu beaucoup d'informations. Je vais procéder de la manière suivante, si vous le voulez bien. J'ai repris le cadre de mon intervention du budget 2016, hein, donc les interventions que j'ai faites lors de la présentation du budget primitif. Et puis, on va essayer de voir là où ça a été et où là, ça a moins été. Comme ça, on aura une évaluation par rapport aux remarques qui avait été formulé à l'époque. Alors, le premier point est absolument positif pour vous, monsieur le maire, parce que à l'époque du budget primitif, nous avions entendu pour la énième fois vos propos pointant les indélicatesses de l'État à notre égard, notamment avec la baisse des dotations, et nous avions budget après budget, compte administratif après compte administratif, à la ville, à la communauté de communes à l'époque, le même discours. Et aujourd'hui, ce soir, plus rien. Alors, je ne sais pas si c'est les premiers effets de cette fraîcheur relative, mais post-caniculaire, qui fait que nous prenons les choses avec beaucoup de recul et que tout ça nous passe un petit peu à côté, ou si c'est peut-être l'événement électoral d'il y a quelques semaines qui vous amène à être plus mesuré sur ces questions. Mais n'oubliez pas, monsieur le maire, que le président Macron a promis quand même que les collectivités locales, territoriales, devrait quand même assumer un effort de quelques 10 milliards d'euros pour venir subvenir aux faiblesses du budget de l'État. Alors, vous pouvez chasser le naturel, on verra bien s'il revient au galop dans quelque temps lorsque nous aurons les premiers effets de cette politique. Le deuxième point sur lequel j'étais intervenu, c'est sur le nombre d'habitants, puisqu'à l'époque, nous avions perdu 500 habitants. La chose, d'ailleurs, continue, le principe continue. Si j'en juge une récente étude prospective paru dans le quotidien régional, nous serions encore pour quelques années, voire quelques dizaines d'années, avec le bonnet d'âne de la perte démographique en cette région, avec Sedan, je crois. Alors Sedan a encore beaucoup moins d'atouts que nous, une ville que je connais bien, mais qui n'a pas le bénéfice du champagne pour apporter une certaine dimension économique à son territoire. Donc nous serions dans le même wagon, dans ceux qui perdraient encore d'ici quelques années un nombre significatif d'habitants. J'avais pointé les recettes de fonctionnement qui, dans le budget primitif, étaient fléchées sur la base de 1 754 € par habitant, mais qui étaient relativement supérieures à celles des villes de la même strate, 1 512 € par habitant. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme chiffre dans ce compte administratif ? L'écart s'est creusé, si je puis dire, mais l'écart s'est creusé à notre avantage, puisque nous avons des recettes à notre avantage, du moins à la ville, pas forcément l'avantage de ses habitants. Nous avons des recettes de fonctionnement par habitant qui sont jaugées dans le compte administratif à 1 795 € par habitant. 1 795 € au lieu de 1 754 € présentés dans le budget primitif. Donc, ce qui fait qu'on a une hausse de ces recettes. Quand on voit que ces recettes sont alimentées au moins par deux tiers, 66%, je crois, d'après le camembert que vous avez présenté, Madame Mazzi, on est en droit de se demander, mais à quand une réduction de l'impôt sur Épernay ? Notre vocation n'est pas à faire en sorte d'augmenter artificiellement nos recettes de fonctionnement, d'autant que l'écart se creuse là aussi de manière significative avec les villes de même strate qui, elles, sont passées de 1 512 à 1 445 € par habitant. Donc aujourd'hui, nous avons 350 € de rentrée par habitant, de recettes de fonctionnement par habitant, de plus que les villes de même strate, alors qu'hier, nous étions à 200 € de plus. La dotation globale de fonctionnement, elle était fixée à 317 € espérés. 317 €, c'est le chiffre qu'on trouve dans le compte administratif. Alors que les autres villes, mais bon, votre propos liminaire dans les travaux qui concernent les budgets ou les conseils d'administration, les comptes administratifs ont peut-être vocation à porter leur effet sur d'autres communes, mais les autres communes sont encore moins bien loties que nous, parce qu'elles voient, d'une manière générale, leur dotation globale de fonctionnement diminuer, passer de 286 pour les villes de même strate à 267 dans le compte administratif. Ce qui signifie, et on peut se poser la question, jusqu'à quel point la corrélation... Alors, je ne suis pas suffisamment technicien en matière fiscale, mais je ne doute pas que vous aurez quelques explications intéressantes à nous fournir là-dessus. Jusqu'à quel point le fait de réclamer de l'impôt ne démontre pas une certaine vitalité qui permet de ne pas faiblir de manière trop significative en termes de dotation globale de fonctionnement. C'est ce que j'en juge au travers des chiffres tels qu'ils sont proposés. J'avais pointé à l'époque le décalage qui existait aussi entre le poids, je dirais, du personnel, les dépenses de personnel dans cette ville par rapport aux autres villes en France de même strate. Dans le budget primitif, nous étions calés sur 49%. Aujourd'hui, dans le compte administratif, ce n'est pas 51% comme figuré sur votre présentation, Madame Mazzi, mais 50,7%. Donc il y a eu effectivement une augmentation, mais qui n'a rien à voir avec celle qui est en route et en cause dans les villes de même strate par ailleurs, puisque les autres villes de France ont presque 10% de poids de la masse salariale en plus dans leur dépenses, puisqu'elles étaient affichées à 57% dans le budget primitif pour passer à 59,1 dans le compte administratif. Vous vous rendez compte, presque 9% de plus. Donc, à Épernay, ça veut dire qu'on peut mutualiser. Mais bon, on a déjà, à mon avis, bien serré le kiki. Et puis surtout, on a quand même des marges de manœuvre pour faire passer les dispositifs d'amélioration de dispositions salariales telles que nous avons pu le faire l'année passée. Je crois qu'il n'y a pas de souci. On a les marges de manœuvre. Il avait été question, lors de ce budget primitif, de la marchandisation de nos activités et recours croissants aux prestataires extérieurs. Donc ça, de manière significative, on le voit au quotidien. J'avais pointé la faiblesse des crédits dédiés à l'environnement, tant en fonctionnement qu'en investissement. On m'avait dit, oh là là, mais bon, c'est dans les budgets croisés, ça apparaît pas comme ça, parce que c'est pas la valeur que l'on met en avant, mais il y a quand même une linéarité pour faire qu'on s'en occupe davantage et que, bon, sur ce point-là, je vais vous faire grâce de vos arguments. Je crois que c'est des choses qui se mesurent sur la distance. On fera le point dans quelques années là-dessus, mais a-t-on le sentiment qu'à Épernay, on fait plus d'efforts que dans d'autres villes de même strate ? J'en suis pas forcément convaincu. J'avais pointé les crédits qui étaient liés au service de communication, en disant que c'était bien plus large que d'autres activités de la ville. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les choses aient été vues à la baisse. J'avais pointé le budget annexe du parking, je dirais au-delà de la réalisation de qualité qui a pu être faite. Moi, c'est la philosophie de tout ça qui me dérange, dans la mesure où on fait en sorte, et je l'ai déjà dit et je le répète, que dans cette ville, l'automobile soit une source de revenus d'appoint. Alors, je pense qu'il y a d'autres choix pour dynamiser notre ville. D'ailleurs, on se demande même si ça ne devient pas en anticipation de délibérations qu'on verra tout à l'heure et qui, elles, sont impulsées, certes, par le législateur, mais qui fait que, à partir du moment où on a du parking dans une ville, eh bien, on peut se doter de dispositifs pour pouvoir imposer, pour pouvoir faire en sorte de récupérer des taxes et des contraventions si les automobilistes ne sont pas sages. Donc voilà un petit peu quelques éléments que je souhaitais mettre en avant. Et puis, on avait conclu à l'époque par un poste un petit peu extra-budgétaire, qui était celui de dire qu'il ne fallait pas oublier que 2006, au-delà de l'impact significatif que j'évoquais tout à l'heure sur les fiscalités locales à destination de la ville, eh bien, en 2016, nous avions également une taxe supplémentaire qui concerne les foyers les plus modestes de cette ville, qui est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, pour laquelle un certain nombre de foyers étaient dans le passé exonérés et qui se retrouvent aujourd'hui largement impactés. Donc voilà, moi, aujourd'hui, les éléments que j'ai à constater par rapport à mon intervention de l'époque, un certain nombre de points dont je vous fais grâce et pour lesquels on regardera avec le recul les tendances, mais un certain nombre d'autres points sur lesquels, notamment en matière de fiscalité et d'imposition de nos Sparnassiens, dans une ville qui perd constamment des habitants, je suis quand même assez étonné qu'on ne se pose pas la question de la finalité de nos exigences en la matière. D'une manière plus philosophique, avec les collègues Richard et Perrin, nous considérons que désormais nous avons passé la moitié du mandat. Nous considérons que dans la première partie du mandat, nous avons plutôt essayé d'être force de proposition en alertant, en disant attention, Épernay ne peut pas continuer à perdre des habitants comme ça, attention, même si le développement touristique est une manne intéressante, mais elle ne sert que quelques-uns, la preuve, les autres quittent la ville, il faut absolument travailler à la diversification et ne pas hésiter à faire venir de l'activité dans d'autres domaines. Nous avons le sentiment que sur aucun terrain Nous n'avons été écoutés. Pour preuve en est, je dirais, le fonctionnement de nos commissions municipales, qui sont exclusivement des chambres de préenregistrement du Conseil et non pas des chambres de dialogue et d'échange, même si, je dirais, nos avis n'ont pas forcément vocation à toujours être pris en compte, mais on peut au moins de temps en temps les écouter et voir honorablement amender sans vendre son âme. Écoutez, ça, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Nous considérons aujourd'hui que nous sommes dans la seconde partie du mandat, que de cette seconde partie du mandat, il n'y aura pas nécessairement, je dirais, de tendance de changement significatif, que la grande partie de vos politiques sont déjà au moins enclenchées ou dans les tuyaux. Donc on ne voit pas forcément la vocation qu'il nous reste à être force de proposition et puis sans cesse ramener des arguments qui ne vous intéressent pas. Nous allons donc, dans cette seconde partie de mandat, nous contenter de voter pour quand ça nous chante, quand ça nous paraît intéressant pour les Sparmaciens, et nous n'hésiterons pas à voter contre à partir du moment où l'intérêt pour les populations sparmaciennes ne sera pas convaincant ou convaincu. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, j'en terminerai là de mon propos. En ce qui concerne le compte administratif présent, notre vote sera à l'unisson de ce qu'il avait été pour le budget primitif. Nous nous opposerons donc à ce compte administratif.
D'autres, Monsieur Lefebvre demande la parole.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le maire, chers collègues, déjà tout d'abord, chaque année, je vous réclame, au moins pour les membres de la commission, les documents projetés, c'est-à-dire les camemberts et les histogrammes. Ça nous faciliterait des calculs, hein, puisque parfois et souvent vous remettez en cause mes calculs, on les aurait directement et on pourrait travailler dessus en commission et avoir une certaine clarté de la situation. Donc, concernant le compte 2016, je ne parlerai pas des ratios qui montrent notre fort potentiel fiscal, des impôts locaux élevés, une forte dette, des dépenses exorbitantes, des fêtes, cérémonies, réceptions, des dépenses de prestige. Je ne parlerai ni de la chute démographique, ni du vieillissement de la population, ni des investissements insuffisants, notamment en matière de voirie. Je me contenterai de faire quelques rappels concernant vos objectifs initiaux sur le budget 2016. Lors du vote du budget primitif, j'ai déclaré que vous faisiez des effets d'annonce, et en voici la preuve avec quelques chiffres. Les restes à réaliser se montent à 2 975 000 et sont donc reportés pour l'année N+1, c'est-à-dire en 2017, dont 1,8 million en investissement, ce qui est considérable. Les crédits annulés se montent à 1 800 000 en section de fonctionnement et à 985 000 en investissement, avec notamment 358 632 au compte 2152, qui est l'installation de voirie, et que je jugeais et que je juge encore largement insuffisant vu l'état de notre toit et de notre voirie. Par ailleurs, je notais que les recettes étaient sous-estimées. Cela est confirmé au compte 70, produits, services, domaines et ventes diverses, avec une rentrée de 224 000, je passe les milliers, supérieure aux prévisions, de 478 700 euros au compte 73, impôts et taxes, ainsi que de 1 169 000 au compte 77, produits exceptionnels. J'ai posé la question, la réponse je ne l'ai pas eue, mais je vais l'avoir ce soir. Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent ces produits exceptionnels, ceux qui ont été réalisés, qui n'ont pas été réalisés ou qui ont été annulés? J'ai cru comprendre en commission d'administration générale que le palais de justice n'était pas dans ces produits exceptionnels cette année. Officiellement, la part revenant à la ville serait de 700 000 euros. 500 000 euros seraient versés à Plurial Novilia en indemnisation, donc il resterait 200 000 euros, simplement. Par ailleurs, j'ai ressorti une coupure de la presse locale de janvier 2017 qui annonçait que la partie revenant à la ville serait de 500 000 euros. Alors, est-ce que c'est 700 000 euros ou 500 000 euros ou est-ce que ce n'est pas encore dans les tuyaux ? Concernant le personnel, les effectifs pourvus ont diminué en 2016. Vous l'avez dit, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres sur les documents officiels. Vous avez dit la chute de 23 ou 25 agents. 25 ?
Ce n'est pas une chute de 25, le nombre de 25, il s'agit d'agents qui ont été transférés.
Oui. Non, mais une chute dans les effectifs de
oui,
la ville.
Oui, si vous voulez. Donc, bon, il y a 25 agents transférés et 14 agents partis en retraite, mais oui, 7 remplacés.
Oui. En comparant le budget primitif et le compte administratif, j'ai trouvé 23 agents. On passerait de 400 à 377 postes. Le gain en crédit annulé est de 238 800 euros, vous l'avez fort bien dit. Le budget primitif prévoyait seulement 19 postes mutualisés. Donc, on a fait mieux. Hein, donc, on est passé, on a fait 4 postes supplémentaires et puis 6 si vos chiffres sont bons. Mais moi, je me suis documenté par rapport aux documents officiels. Par contre, le compte 72-18, autre personnel extérieur, a doublé en 2 ans, de 2014 à 2016. Et là, j'ouvrirai une parenthèse sur cette privatisation concernant les élus d'opposition. Depuis 3 ans et demi, nos locaux, plutôt nos cagibis, ne sont pas nettoyés. Ils sont, malgré des recommandations, bon, peut-être que le local de l'Épernay à venir est nettoyé depuis 1 mois ou 2.
Ah, c'est pas faute d'avoir réclamé.
J'ai réclamé 2 fois. Le local attribué aux socialistes n'est pas nettoyé. On peut aller le constater encore ce soir, malgré 2 interventions de ma part assez récentes. Donc, je pensais ne pas le dire ce soir, mais 3 ans et demi, c'est beaucoup. Il y a des tâches qui se datent de 3 ans et demi. Et ça, c'est la privatisation, monsieur le roi. Ou l'externalisation, comme vous voulez.
Bon. Je ne sais pas si vous pouvez faire descendre les femmes de ménage de Solferino.
Il y a une tâche qui date depuis 3 ans. Les araignées et tout, je les dégage de temps en temps, mais voilà. Je veux bien qu'on aille le voir après, hein, parce que je donne souvent des documents que vous ne voulez pas regarder. Là, on peut aller de visu. Bon, concernant les associations, le financement prévu était en diminution par rapport à 2015 de 9 600 euros et les crédits alloués au compte 65-74 sont de 108 718 euros annulés et 127 000 reportés. Donc ces crédits sont pour une part non pas attribués aux associations. Et j'ouvre encore une parenthèse, chaque année je vous parle de la Caisse des écoles et du CCAS. Vous me dites toujours, et je l'ai bien compris à la force, que ce sont des subventions d'équilibre. Oui. Donc avec une subvention d'équilibre, on ne peut jamais avoir un solde zéro. Ce n'est pas possible. Et cette année, on a un solde zéro. Donc, que s'est-il passé ? Mystère, vous allez me l'expliquer. Comment arriver au centime près cette année ? C'est la première année depuis X années, au moins 15 ans. L'année 2016 est une année où vos prévisions ont été dépassées. En bien, c'est une reprise économique, certainement. Le tourisme repart, donc vous l'avez noté avec 38% supplémentaires. Les droits de succession, indicateur important sur une ville, sont supérieurs de 20% aux prévisions. Le stationnement et l'allocation de la voie publique, compte 70-321, augmente de 78%. Et ainsi que le compte 70-323, la redevance du domaine public, qui augmente de 72%. Donc, en quelques mots, pour conclure, chaque année, comme le chantait Claude François, c'est la même chanson. Vous appliquez à peu près les mêmes techniques pour obtenir un budget de fonctionnement excédentaire, en sous-estimant les recettes, en supprimant des postes de personnel et en privatisant de plus en plus certaines tâches, en annulant des crédits et en reportant des restes à réaliser, en reportant ou supprimant des investissements. Ainsi, vous faites croire aux Sparnassiens que votre gestion est vertueuse. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur Richard demande la parole, monsieur le maire.
Merci, madame la présidente. Je m'arrêterai juste sur un aspect et un sujet évoqué par monsieur le maire dans son rapport ou son discours d'introduction, de présentation à ce budget primitif, qui concerne, je ne vais prendre que celui-ci, mais à mon avis, il est assez significatif d'une démarche qui fait fi de l'opinion de la population, c'est l'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle. Un jour, on a découvert donc qu'il y aurait un ballon là, qui serait une curiosité dans le monde entier nous envierait, que le monde entier pourrait nous envier. En tout cas, c'est sortant d'une curiosité, mais ça fait sourire. Ça fait sourire. Mais le plus grave, c'est que cet aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle mérite autre chose qu'une étude dans un petit cabinet et des décisions à quelques-uns. Pourquoi ne pas faire une consultation? Pourquoi ne pas s'adresser et essayer de faire participer une partie de cette population, ou toute la population, mais une partie de cette population, surtout en des périodes de vaches maigres, lorsqu'on regarde les résultats électoraux, enfin, les participations, pardon, aux différentes élections dans ces deux mois-là qui viennent de se dérouler, et où on voit très bien qu'il y a une défiance, une méfiance à l'égard des hommes politiques. Pas forcément à l'égard de la politique, mais à l'égard des hommes politiques. Or, peut-être que ce sujet mériterait une information plus large, des projets différents, et l'avis de la population. On sort référendum, j'en sais rien, enfin une consultation qui permettrait, alors organisée bien évidemment par la mairie, ça va sans dire, et qui permettrait, voilà, de porter de l'information, de donner différents sujets en termes de projets à débattre, à discuter et demander donc, solliciter l'avis de la population. Or, ici, quand même, et ça a été dit de différentes manières, par Jean-Paul et aussi quelque part par Marc, de différentes manières, l'opposition, c'est pas qu'on la maltraite, c'est pas ça, parce que c'est pas la question de l'opposition, c'est la question de la prise en compte de ce que peut penser une population, de ce qu'elle pense la population sur les habits de lumière, très bien, de ce qu'elle pense sur X ou autre manifestation, décider seul, quand je dis seul, dans un cabinet et pour lequel personne n'est sollicité. Alors voilà, je crois que j'ai la faiblesse de penser dans un moment où quand même la démocratie dans ce pays est mal en point et la désaffection des électeurs, de l'électorat, hein, je ne sais plus combien, 30 et quelques pourcents je crois, 35 de participation à la deuxième tour de la législative, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Attention, bien évidemment, malheureusement, si je puis dire. C'est que ça nécessite d'apporter des réponses et des pratiques nouvelles en matière de démocratie. Ça nécessite de faire autre chose que, alors ça, de la communication, d'ailleurs, on a un poste de communication dans le budget municipal qui est quand même assez... parce que s'il y a des postes en diminution dans différents services, ce n'est pas dans le service communication. Hein. Et une enquête, je crois bien que c'était dans le journal L'Union, pour ne pas le citer, si je me trompe, je m'en excuserai. Mais indiquait d'ailleurs qu'en matière de communication, la ville, eu égard à sa population, était plutôt richement dotée. Donc voilà, pas d'effet d'annonce, pas seulement des effets d'annonce, mais un travail qui permet d'associer, d'aller vers la population et d'essayer, je dis bien d'essayer, en tout cas de lui donner la possibilité de s'intéresser et donc de s'intéresser à la vie de la cité et donc de faire de la politique tout simplement. Mais de la bonne politique au sens où elle participe, où elle pourrait s'engager. C'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, notre demande quand même, excusez-moi, une phrase. Oui, nous sommes enclins à penser que l'aménagement du Jard mérite une consultation de la population. Voilà.
Bien, je vais répondre à... Oui. Monsieur Durançois.
Monsieur Durançois demande la parole.
Merci. Pour rebondir également à ce que disait Monsieur Richard, nous, ce qu'on entend dans la rue, ce qu'on peut lire dans la presse, principalement au-delà de tous les chiffres que notre spécialiste a pu citer avant, ce qu'on entend tout au long de l'année, c'est un manque d'écoute. Je vous dis ça sans animosité. On l'entend dans la rue, on peut le lire dans la presse, récemment aussi avec un petit sondage où on reprochait au maire de notre ville de ne pas être à l'écoute. Moi, je vous demanderais d'être un petit peu plus, de tendre un peu plus l'oreille au bruit de la rue, on va dire. Et je reviens aussi sur l'histoire du Jard, où évidemment, ça peut être une bonne idée d'interroger la population, mais il faut savoir aussi, et là on risque d'aller au-devant de, pas de graves problèmes, mais de petits problèmes, avec les forains qui, je pense, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore été consultés pour leur futur départ. Les commerçants également ne sont pas souvent à l'écoute des personnes concernées. Donc c'est un peu ce qui me chagrine et ce qui chagrine beaucoup les gens qu'on peut rencontrer dans Épernay et aux alentours. Donc c'était juste une petite aparté à ce sujet et j'aimerais beaucoup que la ville soit plus à l'écoute de ses habitants. Merci.
Les questions sont terminées, Monsieur le maire.
Merci, Madame la Présidente. Je vais répondre à tout le monde. Alors, sur cette histoire de manque d'écoute, je suis toujours un peu surpris par cette critique qui revient régulièrement, pour la simple bonne raison que je passe beaucoup de temps sur le terrain auprès des gens. On fait des visites de quartier régulièrement, on rencontre ces habitants, et je n'ai pas le sentiment qu'ils se plaignent beaucoup d'un manque d'écoute, d'autant plus qu'aucune décision n'est prise sur nos travaux de voirie, sur nos aménagements, sans réunion préalable, sans questionnaire auprès des habitants et sans analyse de ces questionnaires, de façon à ce que ces équipements ou les décisions qui sont prises soient prises conformément à l'attente des habitants. La démocratie, j'y suis extrêmement attaché. Et s'agissant, par exemple, des décisions de stationnement, de modification de circulation ou autre, Joachim peut en témoigner. Dans toutes les réunions, on fait faire des questionnaires qui sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres. On va chercher les résultats auprès des gens et on ne décide jamais contre l'avis des Sparnassiens. Alors ça, c'est peut-être pas suffisamment, il faudra peut-être qu'on communique davantage sur le sujet, mais je puis vous assurer qu'il n'y a pas une décision depuis le début du mandat et même avant qu'on ait pris en la matière sans avoir préalablement consulté les habitants, sans avoir éventuellement changé le sens de notre décision en fonction précisément de l'attente de la population. Et si ça, ce n'est pas de la démocratie participative, j'attends qu'on m'explique ce que c'est. J'ajoute qu'on vient de lancer un processus de démocratie participative en début d'année qui donne plutôt de bons résultats. Jonathan pourra nous dire dans un instant les réponses qu'il a. Là aussi, permettre aux Sparnassiens de décider eux-mêmes, quelque part, de projets, de nous les faire étudier et il appartiendra ensuite aux Sparnassiens de les choisir par la voie de la consultation, ça me semble être, me semble-t-il, de la démocratie participative. Alors, est-ce applicable au Jard? Je ne le pense pas, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il y a un cabinet d'études qui travaille dessus, sur des scénarios concernant le Jard, et que s'agissant d'une question extrêmement technique et pointue, il est important, me semble-t-il, que cette réflexion chemine, qu'elle nous soit restituée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet d'aménagement du Jard dessiné, et qu'il faut évidemment imaginez que demain, on puisse avoir sur le Jard, conformément d'ailleurs à ce que nous avions indiqué aux Sparnassiens lors des élections. Si vous lisez attentivement le programme électoral que nous avions déposé, nous avions pris l'engagement d'engager une réflexion sur le devenir du Jard. C'est exactement ce que nous faisons. À ma connaissance, cette proposition a reçu l'accord de 57% des Sparnassiens. Donc je pense que la consultation, elle, a eu lieu. Maintenant, évidemment, dans les modalités de mise en œuvre d'un tel projet, on verra comment on procédera, mais pour l'instant, encore faut-il que le projet existe, qu'il soit dessiné, et à ce jour, Nous n'avons pas de projet précis en la matière pour la simple bonne raison que nous attendons qu'une étude nous soit rendue sur le sujet par un urbaniste qui a pour mission à la fois de permettre l'installation d'un ballon captif, activité qui devrait attirer au minimum 50 000 personnes chaque année, d'installer là-bas un certain nombre d'activités à caractère touristique, d'y installer des équipements hôteliers supplémentaires, d'y transformer le jar pour en faire un jardin public, comme c'est la demande très importante des Sparnassiens. Il suffit de lire les commentaires depuis des années sur certains réseaux sociaux pour se rendre compte que tout le monde rêve de pouvoir amener à nouveau ses enfants ou aller se promener sur le jar revégétalisé, ce qui est notre objectif. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'on soit déphasé par rapport à l'attente des Sparnassiens. Simplement, les choses se font dans l'ordre. Pour l'instant, on est dans une étude de faisabilité qui a commencé il y a environ 2 mois ou 2 mois et demi. Nous n'avons pas le retour de cette étude. Et ça n'est qu'à partir du moment où cette étude de faisabilité nous sera rendue qu'on pourra imaginer des scénarios différents. Vous allez un peu plus vite que la musique. Marc Lefebvre, qui nous a rappelé tout à l'heure un refrain très connu, lui au moins est resté dans le rythme de ce point de vue. Il ne cherche pas à aller plus vite que la musique sur ce projet qui est en cours et pour lequel aujourd'hui on attend d'avoir les propositions d'aménagement pour pouvoir choisir une option ou une autre. Je vais prendre à rebours, on va faire les interventions des uns et des autres. Donc j'ai répondu à M. Durançois sur le manque d'écoute. Alors je ne vois pas de quelle étude ou quelle enquête vous faites référence. Je n'ai pas ce souvenir personnellement. J'ai peut-être loupé un numéro de l'Union. Mais en tout cas, je serais curieux d'en avoir le résumé. S'il s'agit d'un sondage ou d'une étude statistique, je serais évidemment très intéressé d'en prendre connaissance. Mais donc j'ai répondu à William Richard sur le JAR. S'agissant de... Attendez, je si vous... De quelle demande-là? Attendez, oui. Attendons d'avoir les résultats, mais je ne vois pas sur quoi on pourrait aujourd'hui soumettre aux Sparnassiens.
On le dit avant parce que ça ne se fera pas.
Bon, voilà. Écoutez, vous verrez bien. Vous verrez bien. Concernant les commentaires de Marc Lefebvre, comme chaque année, je n'ai pas l'impression de vivre dans la même ville que Marc, parce qu'il voit tout en noir. Je ne dis pas qu'on voit tout en rose, parce que ça pourrait être tendancieux. Mais en tout état de cause, les statistiques ou les chiffres sont loin d'être ceux qu'il décrit. S'agissant des produits exceptionnels, j'ai le détail des produits exceptionnels. Ça représente la somme de 700 398 euros. Il y a là-dedans une indemnité de 70 000 euros suite à un contentieux juridique. Il y a 48 000 euros concernant chemin des forges, un terrain vendu. 17 000 euros concernant des remboursements de taxes foncières qui étaient dus à la ville depuis 2014. 57 000 euros remboursement d'assurance suite à des sinistres. 137 000 euros vente d'un terrain rue des Joncs. 170 000 euros vente d'un terrain rue des Côtes. Et 325 000 euros suite à un échange foncier avec Pluriel Novilia. Donc ça fait effectivement 700 000 euros. Ce sont des opérations qui arrivent régulièrement. Alors, le montant, évidemment, par définition, n'est pas toujours le même. Mais la gestion foncière que nous avons, les dépenses que nous provisionnons parfois et les sinistres qu'on a ne se terminent pas toujours en défaveur de la collectivité. Et ça explique donc recettes, les produits exceptionnels que vous avez dans le dossier. Concernant le palais de justice, la recette totale est de l'ordre de 700 000 euros. Effectivement, j'ai plus la somme exacte, je n'en sais pas, 720 000 euros. Nous avons effectivement à indemniser Pluriel Novilia, qui a aménagé des logements moyennant un bail amphithéotique il y a maintenant 15 ou 20 ans, je n'ai plus la date exacte. Donc, compte tenu des règles d'amortissement, nous aurons indemnisé Pluriel Novilia, et le solde sera au bénéfice de la ville. Il devrait être de l'ordre de à peu près 200 000, c'est ça ? 200-220 000 euros, j'ai plus le montant exact, mais je vous le préciserai par écrit.
L'indemnité, c'est 500 000 euros.
Pardon ?
L'indemnité, c'est 500 000 euros.
Non, indemnité, non. Enfin, vente du bien environ 720 000 euros, grosso modo indemnité de 500 000 euros et le solde pour la ville. Concernant le local attribué au groupe socialiste, alors je découvre aujourd'hui cette situation, je la regrette, je vous présente mes excuses, il y a des défaillances dans nos services, cette question devait être réglée dans la semaine parce que je ne peux pas accepter que des locaux appartenant à la ville, qui plus est affectés à des conseillers municipaux, soit dans un état de, ou de délabrement ou de non-nettoyage qui n'est pas admissible. Donc, je découvre aujourd'hui ce problème, je n'avais jamais entendu parler. Concernant la subvention d'équilibre au niveau du CCAS, effectivement, nous avons tous les ans une subvention d'équilibre. Cette subvention d'équilibre, son montant varie en fonction du déroulement de l'année. On a parfois, sur certaines années, des recettes supplémentaires qui font que par rapport à ce que nous avions prévu en début d'exercice, la subvention d'équilibre est plus ou moins importante. Je pense que cette année, on avait prévu les choses de manière juste, ce qui fait qu'on n'a pas eu de subvention d'équilibre à apporter en plus de celle qui avait été prévue au budget primitif. C'est la raison pour laquelle il n'y a peut-être pas au niveau du budget supplémentaire à prévoir de subvention d'équilibre. Et en tout cas, ça n'apparaît pas au niveau du compte administratif. Maintenant, il est possible que l'année prochaine, ce soit à nouveau le cas. C'est très difficile à dire, tout simplement parce que, comme vous le savez, on fait dans les collectivités publiques un budget prévisionnel. On ne sait jamais le niveau d'activité de nos services. Il peut y avoir certaines années moins d'activité que d'autres. Le meilleur exemple, c'est le parking centre-ville cette année. Nous avions pensé qu'avec la chute, les travaux, nous aurions une baisse d'activité plus importante que ce qu'elle n'a été. Donc nous avions sous-estimé le montant des recettes. Il s'est avéré que nous avions 82 000 euros de recettes imprévues par rapport à ce qu'on avait imaginé. C'est une bonne nouvelle. En réalité, effectivement, on a peut-être été un peu trop pessimiste quand on a fait le budget 2016. Résultat, on a, à la fin de l'année 2016, là-dessus, une bonne surprise avec une recette enregistrée qui n'était pas prévue. Je termine juste là-dessus. C'est toute la difficulté de la gestion prévisionnelle, c'est qu'elle réserve parfois de bonnes surprises, à savoir qu'on est dans l'objectif qui avait été fixé. Parfois, on est au-delà. Parfois, on est en deçà. Mais il n'y a pas de constance en la matière et la meilleure preuve, c'est très certainement les subventions d'équilibre que vous évoquiez tout à l'heure, qui certaines années nous obligent à remettre au pot, d'autres années à retrancher les sommes parce que ce qu'on avait prévu ne s'est pas nécessairement produit. En tout cas, là-dessus, je pense qu'on doit continuer à aborder ces questions avec beaucoup d'humilité parce qu'elles relèvent de la prévision et la prévision, on le sait tous, réserve parfois des surprises. Vous souhaitiez dire un mot sur ce point ?
Parce que depuis 15-16 ans que je regarde les comptes administratifs des Pernay, je ne l'ai jamais vu à zéro. Alors c'est la première fois.
Et, ben peut-être
pour les écoles, la caisse des écoles, et pour le CCAS. Alors je me demande si c'est possible d'arriver à prévoir au pile.
Eh bien, il a peut-être fallu 15 ans pour que ça arrive.
Oui. Et pour les deux,
non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est important, c'est le montant global qui a été consacré. Que ce montant global résulte des crédits prévus initialement avec éventuellement un budget supplémentaire ou qu'on ait du premier coup tapé dans la cible, à la limite peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'effort qui est fait par la collectivité et cet effort n'est pas en diminution globalement, tout simplement parce que la situation le justifie, parce que au niveau du CCAS, tant dans le secteur troisième âge que dans le domaine de la petite enfance ou que dans le domaine des personnes en difficulté, notre action ne diminue pas, bien au contraire. Donc, pour résumer, Monsieur Lefebvre, on pourrait faire une analyse comparative de vos chiffres et des nôtres. En tout cas, si la gestion était aussi catastrophique que vous le dites, nous ne présenterions pas un tel excédent, un tel montant d'investissement, des impôts qui n'augmentent pas depuis la 11e année. Vous pensez bien que si la situation était catastrophique, tous les indicateurs seraient au rouge. Ils sont plutôt aujourd'hui au vert grâce à la qualité de la gestion de nos services et j'y associe évidemment chacun des élus. S'agissant de M. Angers, alors effectivement, la question du désengagement de l'État, je l'ai évoqué, mais d'une phrase tout à l'heure, parce qu'on l'évoque souvent au budget, on l'évoque moins en compte administratif, parce que ça fait un peu redite. Mais enfin, puisque vous m'amenez sur ce terrain-là, je confirme qu'effectivement, ma critique sera demain la même à l'égard du nouveau pouvoir, si effectivement, il persiste à faire payer les collectivités en lieu et place de l'État, pour la simple et bonne raison, et c'est l'Association des maires de France qui le dit, que c'est profondément injuste. Vous savez comme moi que les collectivités françaises sont bien gérées, qu'elles sont responsables d'une toute petite partie de la dette publique française. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tenues d'être à l'équilibre. Si l'État s'était appliqué les mêmes principes, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Si la sécurité sociale s'était appliquée les mêmes principes, on ne serait pas non plus dans la difficulté où on est aujourd'hui. La solution qui a été trouvée par le gouvernement précédent, ça a été effectivement de taper généreusement dans la caisse des collectivités locales, ce qui nous a privés de recettes pour mener à bien nos politiques. On s'en est quand même pas trop mal tiré. J'attends maintenant, comme tout le monde, je crois, en France, de savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire que ces 10 milliards d'euros, on peut imaginer de les économiser, mais il y a la manière de le faire. Et ce qui a beaucoup été critiqué auprès du gouvernement précédent, ça a été la brutalité de l'effort, c'est-à-dire sur 3 ans, de manière uniforme, sans tenir compte de la crise qui existait sur le plan économique. Si maintenant il s'agit sur un mandat de réduire progressivement un petit peu chaque année les concours des collectivités, ça peut permettre aux collectivités de s'y adapter, j'allais dire progressivement. Si on redonne de la souplesse aux collectivités, elles peuvent passer ce handicap de la perte de recettes sans difficulté. Je prends l'exemple qui est très souvent cité par les élus à juste titre. On a en même temps un État qui nous retire des moyens et en même temps un État qui nous impose toujours plus de normes. Des normes dans tous les domaines, hein, sécurité, accessibilité, environnemental. Enfin bon. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on demande toujours plus d'efforts aux collectivités en termes de normes et en même temps, on leur sucre les recettes dont ils pensaient bénéficier. Et c'est là qu'on arrive à une impasse, et cette impasse, elle a été dénoncée par l'ensemble des maires, toutes sensibilités confondues à ma connaissance, et je m'inscris dans cette démarche parce que je considère qu'effectivement, l'État qui est un partenaire doit respecter les collectivités. Si des dynamiques territoriales existent aujourd'hui, ça n'est pas grâce à l'État, pas plus à celui d'aujourd'hui que celui d'hier ou celui d'avant-hier, ça tient essentiellement à la volonté des élus locaux qui, au niveau des départements, des régions, des intercommunalités, des communes, travaillent, et c'est le produit de la décentralisation, c'est-à-dire font en sorte que leur territoire soit vivant et c'est des territoires qui investissent. Mais si chaque année on est découragé par le fait qu'on vient nous taxer toujours un peu plus, le risque c'est qu'effectivement, et c'est ce qu'on voit dans le milieu rural notamment, on ait de plus en plus d'élus qui baissent les bras parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont un petit peu les vaches à lait de l'État. Et cette situation, j'espère évidemment qu'elle cessera un jour ou l'autre, je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment sera opéré ce prélèvement de 10 milliards d'euros. Ce que j'aimerais, c'est que pour une fois, il se fasse, si on doit le faire, qu'il se fasse dans la concertation pour que les élus puissent avoir leur mot à dire sur la manière dont ils vont mettre en œuvre ce plan d'économie. C'est ni plus ni moins que la demande qui avait été faite à l'époque par l'AMF, unanime, à savoir que, effectivement, baisser brutalement, sans concertation, sans modalité, sans étalement, et d'ailleurs le gouvernement précédent avait fini sur la fin, l'année précédente les élections a étalé en 2 fois la dernière baisse, c'était bien la preuve qu'il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Preuve en est, le niveau d'investissement local avait chuté de 17 ou 18%, ce qui était évidemment un handicap pour la croissance. Vous avez parlé tout à l'heure des recettes par habitant. Alors effectivement, les ratios évoluent et enregistrent chaque année des variations pour plusieurs raisons. Un, la baisse de population, ça veut dire baisse du dénominateur. Quand on fait recette par habitant, il y a bien habitant en dessous. Donc, effectivement, ça peut faire varier les chiffres, à la hausse en l'occurrence. Deuxièmement, les rôles complémentaires. Les recettes intègrent chaque année des recettes imprévues. J'ai donné le chiffre tout à l'heure. Je crois que c'était 200... le montant, je vais vous le retrouver, 239 000 euros supplémentaires de rôles complémentaires. Donc ce sont des régularisations faites par les services fiscaux ou des rôles complémentaires pour la CVAE pour cette année. Donc effectivement, d'une année sur l'autre, ça peut faire varier le montant des recettes entre ce qui était prévu au BP et ce qui est prévu au compte administratif. Donc c'est très certainement ces évolutions qui font varier ces ratios. L'important, me semble-t-il, c'est que nos produits soient en augmentation alors même que les taux de fiscalité n'augmentent pas. C'est donc, s'il y a des évolutions, c'est ou des rôles complémentaires ou, par exemple, l'augmentation de la taxe de séjour parce que l'activité touristique, sans doute, augmente et c'est une bonne source de recettes, ou ce sont des rôles complémentaires, je l'ai dit, ou ce sont l'évolution des bases, mais en aucun cas, ça résulte d'une décision de la ville d'accroître la pression fiscale. C'est ce qui me semble important. Concernant les dépenses de personnel, alors effectivement, elles peuvent paraître faibles Mais il faut, comme je le dis chaque année, il faut injecter en plus, ajouter en plus de dépenses de personnel telles qu'elles apparaissent dans le budget, les dépenses de transfert vers la communauté d'agglomération, puisque vous savez que quand on mutualise des services, certes, ces agents deviennent des agents communautaires, mais le salaire qu'ils percevaient préalablement est remboursé par la ville à la communauté d'agglomération, de sorte que ça fait apparaître, ça fait baisser le poste dépenses de personnel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas à côté de ça des dépenses de transfert qu'il faudrait réintégrer pour avoir une juste estimation du poids du personnel dans le budget de la ville. Quoi qu'il en soit, notre administration fait un travail remarquable. Elle le fait avec un effectif qui n'est pas pléthorique, ce qui me semble également un signe de bonne gestion. Ça nous amène de temps en temps à, par exemple, décider d'externaliser ou de privatiser, puisque c'est le terme que vous retenez, un certain nombre de services. C'est aussi une bonne gestion que de savoir ce qui fait partie de la sphère normale d'une collectivité et ce qui fait partie de son cœur de métier et ce qui n'en fait pas partie. Le meilleur exemple que nous ayons connu ces dernières années, c'est bien la restauration scolaire. Nous avions une restauration scolaire qui nous coûtait cher, qui s'effectuait dans des conditions compliquées parce que le bâtiment avait vieilli et surtout qu'il n'était pas du tout aux normes handicapées, ce qui nous aurait obligé à refaire complètement ce bâtiment. En choisissant de confier ce service à la société API, cette API aujourd'hui, ce sera peut-être une autre un jour ou l'autre, nous avons résolu les problèmes, nous avons libéré un élément de foncier important, nous avons évité un investissement important pour mettre aux normes un bâtiment, et les performances de gestion et la satisfaction aujourd'hui est supérieure à ce qu'elle était hier. Donc je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique, ce n'est pas une question d'idéologie. Dans d'autres domaines, par exemple, on pourrait imaginer de concéder le stationnement à des sociétés privées. Je m'y suis toujours opposé parce que je considérais que la gestion du stationnement par la ville était tout à fait satisfaisante et je ne suis pas du tout persuadé que le privé ferait mieux que nous. En revanche, s'agissant de la restauration scolaire, compte tenu également des risques sanitaires qui peuvent exister, il est important de s'en remettre à des groupes spécialisés en la matière. Je rappelle toujours que la France est le premier pays au monde pour la restauration collective, que les groupes français sont les meilleurs du monde en la matière. Quand on a la chance d'avoir des leaders mondiaux sur ce type de problème compliqué à gérer, on fait confiance à ces leaders qui font un travail de qualité, à un coût maîtrisé et pour la plus grande satisfaction des enfants ou des personnes âgées qui bénéficient de ce service. D'autant plus que nous sommes maintenant en conformité avec les règles sur le bio, ce que nous étions incapables de faire quand nous étions aux commandes de la restauration scolaire, tout simplement parce que c'était compliqué pour nous de le faire, alors que pour le groupe API, nous respectons les critères de bio, nous respectons les filières courtes, et encore une fois, la satisfaction des enfants et des parents est là pour nous apporter la meilleure réponse quant au choix qui a été fait. Concernant les dépenses de l'environnement, c'est vrai que les dépenses de l'environnement n'apparaissent pas forcément de manière très importante dans nos services, parce que, par exemple, on ne met pas les espaces verts nécessairement dans l'environnement, alors que c'est quand même de l'environnement, et que la plupart des dépenses d'environnement de sur notre ville sont portées par la communauté d'agglomération. Les déchets, l'eau, l'assainissement, les transports, ce sont des postes majeurs d'investissement dans le domaine de l'environnement. Il faudrait effectivement additionner le profit que tirent les Sparnassiens pour leur environnement des politiques de la communauté d'agglomération et de la politique de la ville. C'est là qu'on pourrait juger efficacement le sens de notre action. En tout cas, tout ce que nous avons entrepris dans le cadre de l'agenda 21 hier, des démarches aujourd'hui de type TEPCV ou ville respirable, vont dans la bonne direction. Je me réjouis d'ailleurs que nous travaillons sur ce sujet en bonne intelligence avec le PNR comme avec la communauté d'agglomération, et qu'aujourd'hui, si notre territoire a acquis une certaine crédibilité, c'est grâce aux actions qui ont été entreprises par les uns et par les autres. Concernant le stationnement payant, vous semblez vous étonner des chiffres qui sont donnés. Alors, il y a l'explication des 82 000 euros. Ce n'est pas qu'on a augmenté les tarifs, c'est tout simplement parce qu'on avait prévu une somme moindre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, le stationnement payant, c'est aujourd'hui la norme dans toutes les villes. L'idée, ce n'est pas de taxer pour prélever de l'argent, c'est surtout de favoriser la rotation des véhicules, c'est-à-dire le partage de l'espace public, qui sinon profiterait toujours eux-mêmes et empêcherait les chalands notamment de venir faire leurs achats en ville. Toutes les villes aujourd'hui de la même taille qu'Épernay ont toutes, sans exception, le stationnement payant. Nous avons été l'une des premières à faire en sorte que l'heure gratuite demeure dans les parcs fermés. Je m'en félicite et quelque part, les Sparnassiens l'apprécient. Je rappelle également que nous avons voté un certain nombre de dispositions. Nous avons voté également des dispositions, je parlais bien de parcs fermés. Nous avons également voté des dispositions pour que les véhicules propres bénéficient aussi du disque vert, ce qui là aussi est un avantage de donner aux personnes qui ont investi dans des véhicules propres. Et je trouve que globalement, ça a du sens. Alors, vous me parliez à la fin, quelle est la finalité de la politique fiscale? Sa finalité, c'est tout simplement de financer les dépenses du service public. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que nous avons toujours fait. Le service public, il n'est pas en recul, il n'est pas en déclin éperné. Il s'adapte constamment, il se modernise constamment, il se mutualise avec la communauté d'agglomération qui a la même vocation que nous, à savoir d'offrir un service public de qualité aux habitants. Et globalement, j'ai le sentiment que le travail est fait et que ce travail ne suscite pas, en tout cas, l'ire ou le mécontentement des Sparnassiens, en jugé par les réactions que nous entendons régulièrement lorsque nous allons, avec l'équipe municipale, visiter les habitants du quartier. J'en profite pour vous annoncer qu'on le fera à la rentrée également, puisque, comme on vient de passer la mi-mandat, il est aussi normal que l'équipe municipale puisse se déplacer et aller entendre les Sparnassiens, entendre leurs critiques quand elles existent, entendre leurs encouragements, discuter avec eux des projets qu'ils souhaitent voir aboutir, et notamment de ce très beau projet de démocratie participative qui, j'en suis sûr, nous permettra, avant la fin de l'année, de retenir des opérations qui émaneront des Sparnassiens. Donc c'est un peu la réponse que j'apporte à M. Richard, puisqu'il s'inquiétait de l'absence de démocratie participative dans notre ville. Vous l'avez même salué au dernier budget. Vous l'avez même salué. Reprenez vos propos lors du dernier budget. Vous étiez tous à vous féliciter de cette évolution.
De dire tout à l'heure, c'était d'une autre dimension. Voilà. Or, vous semblez vous satisfaire d'un petit truc comme ça, ou que je trouve que c'était un bon dé. Allez, on va dire que c'était un premier pas. Et c'est notoirement largement insuffisant.
Mais reprenez les propos de notre échange lors du budget, où on avait effectivement indiqué que c'était une première avancée qui serait suivie par d'autres avancées. Et comme on a l'habitude d'être opiniâtre, d'être constant dans nos actions, vous verrez bien qu'il y aura d'autres avancées derrière. Mais attendez votre tour, ou n'allez pas plus vite que la musique pour me référer aux propos de Marc Lefebvre. Jonathan.
Oui, pour poursuivre sur la démocratie participative, en tout cas l'écoute. Alors déjà, il existe déjà des choses qui existent depuis longtemps. Il y a le conseil de quartier de Bernon qui existe et qui fonctionne. Il y a des instances de consultation à la médiathèque, à l'espace senior, il y a des choses qui existent de consultation des usagers, etc., où on écoute les usagers et les habitants. Évidemment, vous avez aussi, on est 35 en conseil municipal, 10 adjoints, 4 conseillers délégués, qui sont régulièrement à l'écoute des Sparnassiens par les permanences téléphoniques, par les permanences réelles, quand on est sur rendez-vous, ou évidemment, quand on va à des AG, des choses comme ça, on rencontre beaucoup de monde, et on fait remonter, évidemment, tout un tas de demandes, comme vous le faites, évidemment, dans vos rôles de conseillers municipaux. Ensuite, il y a eu un dispositif d'accompagnement fort, l'agenda 21, qui d'ailleurs est toujours en mouvement, et si vous voulez y contribuer, évidemment, vos propositions sont les bienvenues. Je finis, puis tu pourras intervenir sur l'agenda. L'agenda 21, un peu sur les chiffres, il y a des consultations, des actions qui marchent, certaines qui méritent d'être lancées. On est d'accord que tout n'est pas parfait, puisqu'il y a des choses qui sont portées par les services de la ville, d'autres par des partenaires et d'autres par des Sparnassiens eux-mêmes. Forcément, chacun n'a pas forcément le temps de s'impliquer là-dessus. Ensuite, il y a eu une nouveauté qui a été lancée, c'est l'appel à projets éco-citoyens auprès des associations, qui a fonctionné assez bien. Et enfin, le budget participatif, qui, c'est la première année, qui marche bien. Et on a eu les réponses, c'était jusqu'au 31 mai, donc le temps que les services analysent. Et ils sont encore en train d'analyser les dossiers. Il y a eu 25 dossiers de reçus. Plusieurs émanaient de la même personne ou du même groupe ou de la même association. D'autres étaient évidemment assez variés. Donc il y a eu, je crois, on en a une quinzaine qui sont éligibles et qui respectent les critères. D'autres méritent d'être précisés. Donc on a besoin de recontacter les personnes qui ont déposé ces dossiers pour travailler avec eux. Je veux que la commission cadre de vie et développement durable soit associée rapidement à cette consultation qu'on vient juste d'avoir, hein, on a eu reçu assez récemment, et on va vous associer évidemment pour regarder les dossiers, voir quels sont ceux qui sont reçus, à quoi ça ressemble, etc. Mais on le fait régulièrement. Et d'ailleurs, si vous avez des propositions à faire pour la commission, évidemment, vos idées seront les bienvenues, on pourra les inscrire à l'ordre du jour. Et pour ce qui est du budget de l'environnement, peut-être qu'il faudra qu'on regarde à vous présenter un budget consolidé avec reprendre tous les services et présenter ça. C'est peut-être pas évident à faire, mais je pense que les services des finances ne sont pas forcément contentes, mais on va essayer de travailler à ça dans quelques semaines pour essayer d'agglomérer tout ce qui est fait en matière d'environnement sur les différents services et présenter quelque chose éventuellement chaque année. Et d'ailleurs, on va essayer de présenter un rapport du développement durable chaque année. C'est une obligation qui incombe par la loi à l'agglomération, mais si le travail est fait par l'agglo, la ville pourra aussi le faire à côté.
Avant de mettre les rapports aux voix, je demanderai à monsieur le maire de bien vouloir conformément à excusez-moi.
Votre micro.
Comment? Oui, je voudrais rajouter... Oui.
Monsieur Angers redemande la parole.
Merci. Je vais essayer d'être bref. Je voudrais rajouter deux ou trois choses. Premièrement, tout à l'heure, quand je parlais de fraîcheur post-caniculaire, c'était une boutade, hein, quand je vois tous les collègues et les gens des services se ventiler. Première remarque. Deuxième remarque, j'ai oublié, ce n'est pas dans mes habitudes, je tiens quand même à, même si on a quelques griefs par rapport à ce compte administratif, ces griefs sont bien sûr à l'encontre de la politique qui est menée, mais en aucun cas à l'encontre des services, et je tenais à remercier le personnel pour la présentation des documents, et ce, bien en amont. Troisième point, il y a une subvention qui m'a rassuré parce qu'elle ne posait pas de problème au moment où on l'a votée, elle ne posera pas de problème non plus ce soir. C'est la subvention qui concerne le club de lutte d'Épernay, parce qu'on a vu ces derniers jours dans la presse et par Internet, malheureusement, une histoire un petit peu rocambolesque. A priori, si on a attribué une subvention, c'est que le fonctionnement de ce club nous allait bien, et notamment l'engagement de ses bénévoles. Je crois même que le bénévole qui est en cause dans la mésaventure que je vais évoquer a reçu une récompense à la fois de la ville et de ses pairs sportifs il y a quelques mois. Aujourd'hui, on apprend que cette personne est menacée d'expulsion. Et quand je dis menacée d'expulsion, c'est que, a priori, dès demain, elle devrait se présenter aux forces de l'ordre avec ses bagages pour être évacuée vers l'Arménie. L'Arménie qui semble être son pays natal, mais cette personne a vécu une large partie de sa vie en Russie. Et c'est à cet endroit qu'elle a été opprimée, qu'elle est venue vers notre pays. Elle a cherché en France à s'intégrer, a priori avec succès dans le monde associatif. Elle était prête à trouver un emploi. A priori, ça posait des difficultés parce que ce n'était pas dans un secteur en tension pour être chauffeur-livreur, comme quoi, a priori, ce n'est pas des métiers qui sont là en tension. Et aujourd'hui, donc, elle est mise, je dirais, au banc de notre République et invitée à être reconduite à la frontière, même si, d'après ce que j'ai entendu, le dialogue ne semble pas clos avec les services de la préfecture, d'après les éléments que j'ai eus cet après-midi. Je sais que, monsieur le maire, vous avez été également sensible à ce problème et que vous êtes intervenu auprès de monsieur le préfet pour demander quelques explications. Moi, j'avoue que je suis particulièrement heurté. Je ne connais pas spécialement cette personne, mais je suis heurté par cette histoire, parce que je trouve qu'elle va à l'encontre de notre République. Notre République, elle est quand même jalonnée par des individus qui sont venus dans notre pays avec la volonté de s'y intégrer, avec la volonté d'y apprendre notre langue, avec la volonté de participer à la vie de la cité. Et heureusement qu'on en a retenu quand même la plupart, parce qu'aujourd'hui, ils grandissent notre République. Donc voilà, moi, je voulais vous faire part de cette situation au travers de cette délibération. On accompagnait ce club avec ces gens qui y vivent, dont dont cette personne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la menace de la République est sérieuse. Alors même si on a une petite rémission, bien, nous continuerons à être attentifs au sort qui sera réservé à cette personne.
Madame la Présidente, un petit mot. Effectivement, je suis intervenu dès le mois de janvier, pour soutenir cette personne, puisque la difficulté avait été pointée dès ce moment-là. Et ce que je regrette dans cette affaire, je respecte, pour toutes les raisons que vous imaginez, étant un professionnel du droit, par ailleurs, les décisions de justice, mais en l'occurrence, il y a un appel qui est en cours, puisque si le tribunal administratif l'a débouté de sa demande, son avocat a saisi la cour administrative d'appel de Nancy, et ce que j'aurais du mal à comprendre, mais c'est une chose auquel l'administration est peu réceptive, malheureusement, c'est qu'on puisse renvoyer dans son pays quelqu'un qui n'a pas épuisé les recours auxquels il a droit de par l'état de droit français. Et à tout le moins, il me semblerait logique que, avant une éventuelle décision de reconduite à la frontière, l'État respecte le temps de l'appel. Son avocat a déposé un mémoire en appel auprès de la cour administrative d'appel. Il serait quand même paradoxal que cette personne soit expulsée, alors même qu'elle est encore en attente d'une confirmation d'une décision qui pourrait peut-être très bien lui être favorable, auquel cas, si cette personne repartait et qu'en fait il s'avérait qu'elle ne devait pas repartir, ce serait une erreur de l'État français. Alors, la décision appartient à l'État et à lui seul. Je suis intervenu encore aujourd'hui pour essayer de convaincre les services de la préfecture de, au moins, de patienter le temps que les choses se fassent. Effectivement, c'est une personne qui semble pleine de bonne volonté, qui est travailleur, qui est animateur et qui fait profiter les jeunes du club de lutte de son savoir. Et Dieu sait que ce savoir est important, puisque c'était un athlète de haut niveau en la matière. Et il me semblerait souhaitable qu'à tout le moins on respecte ce délai d'appel avant de faire procéder à une exécution d'une décision de justice. Ça me semblerait être une solution sage, en tout cas ce que j'ai demandé pour gagner un peu de temps dans cette affaire, en espérant que la raison l'emportera et que la dimension humaine du sujet ne sera pas oubliée, parce que je comprends effectivement qu'il puisse y avoir des décisions d'ordre administratif. L'administration respecte les textes qui ont été votés par le Parlement, et ces textes sont anciens. Pour autant, à partir du moment où une personne a encore des droits à faire appel, qu'on respecte ce droit fondamental qu'est le droit de l'appel. Sinon, effectivement, on risque d'aller au-devant de graves injustices qui terniraient l'image de notre pays. Donc j'espère qu'on sera entendu là-dessus. J'ai eu un échange également avec le nouveau député ce matin qui m'a appelé pour me parler de ce cas précisément. Il vient de prendre ses fonctions et lui-même, je le sais, s'est mobilisé en ce sens, considérant que il n'y a pas péril en la demeure, qu'il n'y a pas urgence, qu'on peut quand même attendre la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy avant, le cas échéant, de prononcer une expulsion, ou peut-être de régulariser la situation au vu de la situation de cette personne.
Avant de mettre les rapports aux voix, je vous demanderai, Monsieur le maire, de bien vouloir...
C'est la question pour page 39, il y a une subvention, fonctionnement, association, personnes privées de 35 000 et quelques. Je voulais savoir à quoi ça correspondait, c'est tout. C'était une demande d'information, merci Madame la Présidente, et excusez-moi de vous avoir interrompu.
C'est pas grave.
Je vous en prie de mon inélégance.
Monsieur le maire, je vous demanderai, conformément à la loi, de quitter la salle de séance. Donc pour les comptes administratifs. Alors, qui va donner la réponse ?
Ce sont des subventions FISAC. Subventions pour les vélos électriques, je présume. Voilà. FISAC, oui. Il y a des subventions dans le cadre du FISAC chaque année. Merci. Voilà. page 187 en annexe, vous aurez le détail.
C'est bon ?
Oui, je vous remercie.
C'est bon, c'est bon. Alors, pour les comptes administratifs... Pour les comptes administratifs de la ville, qui est contre ? Monsieur Lefebvre, Monsieur Richard, Madame Perrin, Monsieur Angers, Madame Demange. Et qui s'abstient ? Je passe au suivant. Pour le compte administratif des parkings, qui est contre ? Pour tout. Alors, c'est valable pour tout le monde. Donc, qui est le secrétaire de séance ?
Le compte est adopté.
Le compte est adopté. Je demande à monsieur le maire de revenir dans la salle.
Bien, merci Mauricette d'avoir pris la présidence, d'avoir assumé la présidence de la séance. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Nous en arrivons au rapport 2B allant de 1 à 7. Il s'agit des comptes de gestion du receveur municipal concernant le budget de la ville et les budgets annexes pour l'exercice 2016. Chers collègues, je vous propose d'approuver les comptes de gestion ville et budget annexe du receveur municipal pour l'exercice 2016, détaillé dans le rapport en votre possession. Je vous propose de voter tous ces comptes en même temps. Et pas d'opposition sur le principe. Alors, qui est contre ? Un vote contre. Qui s'abstient ? Les votes du contrôleur, les comptes du contrôleur de gestion sont par conséquent approuvés. Je vous en remercie. Nous passons ensuite à l'affectation des résultats de l'exercice 2007 pour la ville et le budget annexe. Je vous propose d'affecter les résultats de l'exercice 2016 pour le budget principal et les budgets annexes détaillés dans le rapport en votre possession. Qui, là aussi, tu veux dire un mot, Christine, ou pas nécessairement ? Sur ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous en arrivons au rapport 2D de mémoire. 2D 1 et 2, je passe la parole à Christine Mazzi.
Oui, merci. Donc il s'agit en fait dans ces deux délibérations, 2D 1 et 2, je vous propose donc d'accorder une garantie d'emprunt à 100% à la SA d'HLM Plurial Novilia pour financer la construction de deux projets. Le premier, il s'agit de 28 logements situés rue Paulbert. Le second, il s'agit de 11 logements situés rue Galice à Épernay dans la future résidence autonomie senior.
À côté.
C'était pour situer le lieu.
C'était pour voir si elle dormait pas.
Voilà, c'est ça. Ben, je les ai bien réveillés là.
Pas de questions sur ce point. Avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport D2E.
Admission en non-valeur sur le budget ville. Je vous propose d'adopter la délibération telle qu'elle vous a été donnée et qui vise à admettre en non-valeur des créances dont le recouvrement s'avère infructueux à l'issue des poursuites contentieuses. Il s'agit d'un montant global de 11 489 euros et qui correspond à des frais de garderie, de goûter, de repas de cantine ou de centre de loisirs.
Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition ? Le rapport est adopté. Rapport 2F, Christine Mazzi.
Alors, le rapport 2F, c'est une décision modificative. Donc, il s'agit de la décision modificative numéro 2 qui reprend l'affectation des résultats 2016 par budget et qui tient compte des reports de fonctionnement et d'investissement pour les équilibres par section. Donc vous avez tous les montants sur la délibération, simplement quelques valeurs que je peux vous indiquer. Donc, la première, il s'agit d'une inscription budgétaire de 524 000 euros et qui concerne le RIA 2016 qui est remis au budget 2017. C'est ce qui vous avait été indiqué tout à l'heure, puisque le passage au nouveau régime indemnitaire pour un certain nombre d'agents, donc ce nouveau régime indemnitaire, le RIFSEP, entraîne bien évidemment un chevauchement des deux régimes indemnitaires, puisque le RIA qui est versé annuellement pour chaque agent est versé au mois de mars, a été versé au mois de mars 2017 pour l'année 2016. Et puis la mise en place du RIFSEP a conduit à étaler ce RIA sur l'année. Donc on se retrouve en 2017 avec le RIA de 2016 à verser au mois de mars et le RIA de 2017 étalé sur l'ensemble de l'année. Il y a également une subvention de 400 000 euros pour le cinéma, une subvention d'équipement pour les travaux de rénovation du palace. Une subvention d'équipement versée à la communauté d'agglos, 290 000 euros pour financer une partie des travaux de rénovation de la plateforme du Millésium. Il y a également une subvention de 135 000 euros versée là également à la communauté d'agglos pour financer une partie des travaux de rénovation du plateau de Mairie 2. Et puis il s'agit ensuite de petites sommes. Une somme importante également, 417 000 euros, qui concerne le curage et les soldes des crédits du musée. Il y a ensuite la reprise des résultats pour le budget parking, donc un solde de 15 000 euros qui est réparti, là aussi une partie pour le RIA, une partie 27 000 euros qui concerne le jalonnement dynamique des parkings. En ce qui concerne la répartition du résultat du camping, donc également une partie pour le RIA puisque les agents du camping ont été eux aussi éligibles au RIFSEP. Et puis quelques travaux de réparation et de remplacement de matériel d'espace vert. En ce qui concerne le chauffage urbain, le solde du résultat de 288 euros est maintenu en fonctionnement. Les cellules commerciales Saint-Thibault, une inscription de 48 500 euros pour des réparations sur la section investissement et 38 700 euros pour des réparations sur le bâtiment, mais cette fois en fonctionnement. Et puis, en ce qui concerne les cellules commerciales de Bernon, rien de particulier, puisqu'il s'agit simplement d'ajuster le recours à l'emprunt et puis un ajustement de crédit suite à une attribution de marché, où là, l'attribution du marché s'est faite à un coût plus faible que ce qui avait été prévu.
Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, une abstention ou une opposition ? Abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2G, modification du tableau des effectifs ville des emplois permanents.
Donc, régulièrement, le conseil municipal est appelé à adapter le tableau des effectifs afin d'accompagner l'évolution des services et la qualification des agents. Il est donc nécessaire de procéder, à la création ou à la modification de certains postes ou au remplacement d'agents pour répondre aux besoins de la collectivité. Donc, comme il vous est indiqué dans la délibération, il vous est proposé de créer deux postes d'auxiliaire de puériculture à temps complet afin de permettre la mise en œuvre de deux nouveaux dispositifs de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, de créer également un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour remplacer un agent qui part à la retraite, et puis de créer également des postes pour tous les grades qui permettent de procéder aux avancements des agents qui ont été promus à l'issue de la CAP qui s'est déroulée le 21 juin. Et puis, parallèlement, nous devons nous prononcer sur le recrutement d'un responsable du pôle adulte du réseau de lecture publique et la création d'un poste d'architecte urbaniste.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2H. Recrutement d'un apprenti et d'un agent d'entretien des espaces verts.
L'apprentissage est un dispositif de formation initiale en alternance dans le cadre d'un contrat de travail. Donc l'apprenti est alternativement soit dans la collectivité sous la conduite d'un maître d'apprentissage ou dans un centre de formation encadré par des formateurs. La ville souhaite soutenir ce dispositif et recruter un apprenti pour la prochaine rentrée scolaire, soit dès septembre, au sein du service des espaces verts, sur la base d'un profil d'agent d'entretien des espaces verts qui préparera un diplôme de niveau 5, CAP ou BEP. Le contrat sera conclu pour une durée de 2 ans à partir donc du 1er septembre. Nous avons diffusé l'info donc pour permettre le recrutement de cet apprenti.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2J. Deux I, 1 et 2 concernant un groupement de commandes, des groupements de commandes.
Donc il s'agit de créer 2 groupements de commandes. Donc le premier entre la ville et la communauté d'Aglo pour l'achat de prestations de géoréférencement des réseaux. Et le deuxième entre la ville, le CCAS d'Épernay, la communauté d'Aglo et toutes les communes volontaires qui souhaiteraient adhérer à ce groupement pour l'achat de prestations d'entretien et de maintenance des équipements de sécurité incendie des bâtiments. Donc il convient bien sûr de formaliser ces groupements de commandes par la conclusion de conventions qui vous sont fournies jointes à la présente délibération.
Des questions ? Pas de questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec Christine Mazzi.
Donc, il s'agit du rapport annuel de la convention de concession de la fourrière automobile pour l'année 2016. Donc, vous avez en votre possession le rapport annuel de la fourrière automobile qui a été établi par la SARL Pontalier, qui est relatif donc à l'exercice 2016. Donc, simplement, pour l'année 2016, 141 véhicules ont été enlevés par la fourrière. Sur ces 41 véhicules, 93 ont été restitués à leurs propriétaires et 48 ont été détruits parce que non réclamés.
Madame Perrin.
Moi, j'aurais besoin d'une petite information sur ce dossier parce que le prestataire... fait quand même 17 055,56 € de bénéfices là-dessus. Et la ville n'en reçoit que 465. J'aurais voulu savoir comment c'était calculé.
Alors,
le retour.
Les 17 000 €, ça n'est pas le bénéfice. Non, ce sont les recettes. Ah, c'est pas la même chose. Ah non. Donc il s'agit de recettes pour la fourrière automobile. Donc les tarifs il s'agit d'un décret, les tarifs sont appliqués sont fixés. Les tarifs d'enlèvement
des véhicules. Il y a des normes en la matière, il y a des tarifs précis. Et...
La ligne ne touche que 465.
Parce que c'est le montant de la délégation qui est prévu contractuellement. Sachant que lui a fait un chiffre d'affaires sur cet enlèvement, mais doit déduire de ce chiffre d'affaires ses charges. Oui. Et ça nous évite d'avoir à le faire nous-mêmes, d'avoir un véhicule, une remorqueuse, etc. Donc depuis des années, il effectue ce service et il intervient deux jours comme deux nuits, 24 heures sur 24, avec un système d'astreinte. Vous imaginez s'il fallait qu'on ait un camion de ce type dans les services municipaux et des agents mobilisables sous astreinte 24 heures sur 24, ce serait une activité qui coûterait... excessivement cher à la ville, d'où le choix de la DSP. Monsieur Richard ?
En fait, le tarif a été établi par la convention qui lie la fourrière et la ville, et le tarif est de 5 € par véhicule restitué. Donc, on arrive aux 465 €.
Oui, enfin, pour participer à la commission qui examine les comptes, le rapport présenté par Madame Mazzi. J'ai trouvé amusant une bizarrerie, une curiosité lorsque j'ai posé la question qui fixait les 5 €, les 5 € de retour, qui fixait. En fait, j'ai appris que ce n'était pas la ville. On demandait combien ils voulaient, c'est la réponse qui m'a été faite, on demandait combien ils voulaient ristourner, compte tenu qu'on sait très bien qu'il est dans un contexte favorable puisqu'il n'y a pas d'autre. Dans le secteur qui puisse assurer ce service et qu'effectivement, je rejoins les arguments donnés là il y a quelques instants, à savoir que ça serait autre chose comme coût sans doute,
ah oui.
S'il fallait avoir un service fourrière.
C'est-à-dire que lorsque l'appel a été lancé, nous avons proposé dans le, un tarif compris entre 5 remarque, et 10 euros, et le délégataire a choisi, a répondu avec 5 euros. Voilà, au niveau du prix.
Enfin, voilà, non mais.
Je vous propose de voter ce rapport. Avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport concernant les attributions de subventions. Christine.
Divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes qui sont énumérées dans le rapport qui vous est joint.
Des questions ? Monsieur Angers.
Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais intervenir sur la subvention de 200 euros donc, à l'Union cyclotouriste pour déjà pointer le fait que le vélo coûte bien moins cher en subvention que certains sports mécanisés ou mécaniques, on les appelle comme on veut.
Donc, l'organisation n'est pas la même non plus.
Je voulais profiter de cette délibération pour... saluer la réalisation le long du canal de la Marne et d'une partie de la Marne, notamment entre Condé-sur-Marne et Dormans, désormais, puisque l'itinéraire est pratiquement bouclé. Donc de la véloroute et voie verte. Donc je pense que c'est une initiative intéressante à mettre au profit des différentes collectivités. Je pense qu'il doit y avoir un peu de crédit d'État, un peu de certainement de FEADER. Non. Derrière,
non, département, il département bon. Région.
Département.
Il doit y avoir la région.
Région.
Oui.
Et heureusement qu'on a eu la région Grand Est entre nous.
Je ne sais pas, moi j'ai connu le problème qui a été initié il y a une dizaine d'années par la région Champagne-Ardenne et qui à l'époque était allé arracher les poches du Conseil Général pour se mettre également dans le circuit. Peu importe, la réalisation est faite, elle est fort convenable, elle est fort appréciable. Je pense que c'est un univers où peuvent cohabiter à la fois effectivement des cyclistes, on y voit des joggeurs, on y voit des rollers, on y voit des marcheurs. Même moi, je la pratique de manière régulière. Donc félicitations à tous ceux qui ont mis des crédits dans cette affaire. Cependant, quand même un bémol, depuis Épernay, on peut aller rejoindre facilement la véloroute Voie Verte, soit au pont de Dizy près du garage Citroën, soit rejoindre le canal à proximité d'Ailly, mais on se heurte encore à la difficulté de la sortie cyclable d'Épernay, où on a effectivement une voie discontinue pour pouvoir véhiculer en vélo avec toute la dangerosité que cela soumet. D'autre part, je trouve que, à part pour les sparnassiens qui connaissent bien le site, c'est pas forcément très bien indiqué. Je trouve pas normal qu'un tel équipement à 1 km, 1,5 km de la ville ne soit pas mieux jalonné depuis la ville. Et j'espère qu'on pourra s'améliorer dans ce domaine. Deuxième et dernier point sur cette question. Il m'a été rapporté qu'il y a eu une inauguration la semaine passée, notamment avec la dernière ouverture du tronçon qui n'était pas en service ces dernières semaines entre Reuil, Port-à-Binçon et Verneuil. Et il semble que les élus sparnassiens ont brillé par leur absence à cette manifestation. J'ose espérer que c'est un oubli, mais en aucun cas un désintérêt par rapport à l'investissement qui a été réalisé.
C'est d'autant moins un désintérêt que Benoît y a travaillé d'arrache-pied depuis des années et porte ce dossier s'agissant du territoire d'Épernay. Et moi-même, j'en ai fait autant au niveau de la région, qui intervient certes plus modestement que le département, mais on travaille activement pour effectivement améliorer les liaisons entre ces véloroutes et voies vertes et l'agglomération d'Épernay, la ville d'Épernay, parce qu'il y a un potentiel important et il faut effectivement tendre vers davantage de sécurité et une meilleure visibilité ou lisibilité des parcours. Et Benoît va vous en dire un mot.
Oui, alors en l'occurrence, c'est la deuxième inauguration, puisque la première inauguration, elle date d'il y a maintenant un peu plus d'un an, et il y avait effectivement des élus du bassin de vie d'Épernay qui y participaient. Et si mes souvenirs sont exacts, des élus d'autres bassins n'étaient pas là à l'époque, et pour cause, puisque nous avions inauguré le tronçon entre Condé et à l'époque ça s'arrêtait entre Cumières et Damery. Là, effectivement, c'est l'autre tronçon, donc effectivement, depuis Damery jusque Dormans. Et il reste encore quelques petits travaux à réaliser, hein, puisqu'il y a un moment à Reuil, il y a une petite rupture de charge du côté de Reuil. De la même manière, on a, nous l'évoquions ce matin en réunion de commission au département, il nous faut trouver une solution pour la traversée de Tours-sur-Marne, puisqu'on est sur un site qui est à la fois propriété de VNF, mais avec une servitude de passage au profit de la Smurfit Socar, et que la cohabitation entre les vélos qui sont fort nombreux, et c'est là le succès de cette véloroute voie verte, et les manœuvres des camions, cette cohabitation nous incite à trouver une solution. Nous avons planché dessus ce matin. Effectivement, tu l'évoquais, un investissement important pour le département, et il se trouve que la région Champagne-Ardenne n'avait pas donné suite à notre proposition, et que fort heureusement, après que Franck ait insisté auprès de son collègue, eh bien la région Grand Est a, il y a 3-4 mois maintenant, ou un peu plus de 6 mois, je crois que c'était à la fin de l'année, voté des crédits pour accompagner ce projet, puisqu'à l'origine, on devait avoir une clé de répartition qui devait être 35%, je crois, département, 35% région Champagne-Ardenne, et le reste par l'État. Et en fin de compte, on doit être aujourd'hui à quelque chose comme 85% par le département et le reste par la région Grand Est. Pour ce faire, mobilisé les fonds de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles. Et donc, grâce à l'arbitrage du préfet, nous avons été autorisés à affecter la quasi-totalité du produit de cette taxe, donc à la réalisation de cette route voie verte. Reste posée, et tu as raison, la question de la signalétique depuis les agglomérations, quelles qu'elles soient, petites, grandes ou moyennes, vers cette véloroute. C'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, compte tenu de la clé de répartition et du fait que le département a financé bien plus qu'il ne devait, eh bien, les crédits qu'il aurait pu consacrer justement à venir en appui des agglomérations pour flécher vers la véloroute, aujourd'hui, ces crédits ne sont plus là. Nous sommes relativement satisfaits de voir une véloroute voie verte de réaliser, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. On est attendu sur le tronçon vers Reims, on est aussi attendu au-delà de Châlons. On doit faire la liaison avec le canal Seine depuis le sud-ouest marnais depuis l'Aube. Donc on a quand même encore beaucoup de pain sur la planche. Les services du département y travaillent, mais ce sont vraiment des coûts extrêmement importants. Pour autant, c'est un vrai investissement de loisirs pour nos populations et un investissement qui plus est touristique. Et donc là, je dirais que maintenant la balle est dans le camp des agglomérations. Il y a des réflexions en cours pour justement faciliter le fléchage, et depuis la véloroute voie verte, flécher les sites touristiques notamment, et depuis les agglomérations, flécher cette véloroute. Épernay dans une situation un petit peu particulière, puisque nous, on a des points de connexion depuis Cumières, avec une rupture de charge, mais on ne sait pas comment le traiter, entre Mardeuil et Cumières. On en a une autre entre le stade Paul Chandon et la véloroute. On a travaillé là-dessus avec les services techniques du département et de la ville. Mais pour faire un talutage, il y en a pour près de 180 000 euros. C'était pas ça qui nous avait été annoncé ?
Non. 5
000,
le dernier projet, plus
180, c'était par les champs, oui. Et là, aujourd'hui, on n'a pas les fonds. Une autre solution, effectivement, consistait à passer depuis le pont en passant par la partie de Magenta. L'autre solution, c'est une solution d'avenir, ce sera celle qui sera intégrée, si j'ose dire, à la pleine, au projet de l'île bleue, puisque là, on aura effectivement une desserte de la villa par des pistes cyclables dont certaines sont déjà existantes, et on pourra gagner la véloroute voie verte grâce en fait aux voies en site propre qui seront réalisées dans le cadre de l'aménagement de la plaine d'Aï. Mais là, vous comprendrez aisément que le calendrier, il est sur du moyen long terme.
Oui, mais on a quand même quelques points de dangerosité à lever. Tout à l'heure, il y avait une photo évocatrice sur le pont de Marne, où effectivement, il y a une belle bande cyclable qui a été... une bande cyclable, je ne parle pas de piste cyclable, hein, il y a de la peinture, donc il y a une bande cyclable, on peut pratiquer en vélo sur le pont. Et par contre, pour reprendre jusqu'au pont de la SNCF, là, il n'y a plus du tout de voie cyclable, il faut bidouiller sur les trottoirs. Et les trottoirs, il y a une partie d'abribus qui vient l'encombrer pour récupérer la voie cyclable au bas de la trémie. Et ça se termine au rond-point de la gare, où là, il n'y a à nouveau plus rien. Donc, c'est également cette discontinuité qu'il nous faut envisager, démonter, à essayer de donner un peu de cohésion et d'une linéarité plus grande à tout ça, si on veut vraiment que tout ça fasse office et qu'on ne soit pas, dans des situations de danger pour un public de plus en plus nombreux qu'on voudrait aller voir rejoindre cette voie cyclable.
On est bien conscient du problème. La difficulté, c'est que rue de Reims, dans la partie à la suite du pont, entre les deux ponts finalement, SNCF et pont de la Marne, on est à du stationnement, ce qui empêche évidemment de mettre une bande cyclable. La solution, très certainement à long terme, ce sera à travers le quartier Berge de Marne, avec une passerelle à la fois réservée aux vélos et aux piétons qui pourra enjamber les voies SNCF et arriver directement au niveau de la cour de la gare et donc au centre-ville. Donc on travaille sur plusieurs hypothèses. Je pense qu'effectivement, à mon sens, la solution la plus simple aujourd'hui pour sécuriser le trajet entre Épernay et la véloroute, c'est très certainement par Magenta, le long du quai de Magenta, à la pharmacie, après le pont, où là, on a une continuité quasi parfaite. Il reste 2-3 chemins, quelques centaines de mètres à stabiliser parce que ce sont des chemins de terre. Et autant l'été, en ce moment, c'est jouable qu'en pleine période hivernale, il risque de patiner un peu. Et auquel cas, on aurait une continuité jusqu'au canal. Et puis, progressivement, d'autres solutions seront trouvées. Je pense notamment au niveau du camping, où effectivement notre souhait est de relier le camping et le stade Paul Chandon à la véloroute et voie verte, parce que là aussi il y a un public qui, sans emprunter les voies de circulation routière, pourra rejoindre ce réseau qui offrira aussi, et Benoît avait raison de le dire, un vrai potentiel touristique supplémentaire, parce que les touristes viendront peut-être plus facilement à vélo ou loueront les vélos, ils peuvent le faire aussi bien au camping et qu'à l'office du tourisme, et du coup faire une vraie journée de promenade à vélo, ce qui fait durer le séjour et profite évidemment à notre bassin de vie. Je vous propose de passer au vote concernant ce rapport de subvention. Avis contraire ? Abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2L1 et 2, Jacques Fromm.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous invite à émettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical, d'une part de la société Champagne-Boisel, 646 Avenue de Champagne, pour la période touristique et l'ouverture de ses nouveaux locaux à partir du 1er juillet, et d'autre part de Pôle emploi pendant les vendanges, afin de permettre la mise en relation entre employeurs et vendangeurs.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition. Abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2M1 et 2, Jacques Fromm.
Chers collègues, dans le cadre du Club des partenaires de l'avenue de Champagne, l'Office de tourisme d'Épernay, Pays de Champagne et le Millésium souhaite être partenaire des manifestations la soirée blanche du 14 juillet et les habits de lumière en 2017. Je vous propose d'autoriser la signature des conventions de partenariat dont vous avez le détail annexé au rapport en votre possession.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2N, Jacques Fromm.
Dans le cadre de la Champagne en fête, la ville d'Épernay souhaite pouvoir disposer d'une cour avenue de Champagne afin d'organiser un concert de jazz. La maison Paul Roger accepte de mettre à sa disposition deux cours de la maison, 6 à Épernay, 32 et 34 avenue de Champagne. Je vous propose d'autoriser la signature de la convention de partenariat annexée au rapport en votre possession.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Rapport Dezo.
Alors, un nouveau rapport, un nouveau régime juridique du stationnement payant entre en vigueur au 1er janvier 2018. L'usager ne réglera plus un droit de stationnement avec une amende forfaitaire de 17 euros au niveau national, mais une redevance d'utilisation du domaine public. La loi prévoit que ce forfait de post-stationnement, comme la grille tarifaire de redevance du stationnement, soit fixée par l'Assemblée délibérante de la collectivité compétente. Vous avez le détail de cette mise en place dans le rapport en votre possession. Je vous invite à autoriser le maire ou son représentant à signer avec l'ANTAI la convention dite à cycle complet annexée, dont vous avez pu prendre connaissance.
Alors, je précise quand même que c'est une délibération que devront prendre toutes les villes qui pratiquent le stationnement payant, puisque l'État avait décidé de décentraliser la politique de stationnement au niveau des collectivités et non plus d'avoir une redevance fixée de façon uniforme sur le territoire. Nous avions pris en 2014 l'engagement, puisque cette réforme était déjà dans les tuyaux, ses effets ont été retardés par la volonté de l'ancien gouvernement, de ne pas augmenter ce forfait post-stationnement par rapport au forfait antérieur. Le forfait antérieur était à 17 euros l'amende. Aujourd'hui, enfin à partir de l'année prochaine, puisque c'est avant la fin de l'année qu'il fallait délibérer, on sera à 16,50 euros, alors que bien d'autres collectivités en ont profité pour augmenter sérieusement les tarifs. Donc nous respectons l'engagement que nous avons pris. Je précise que par ailleurs, depuis 2011, les tarifs n'ont pas bougé en zone verte et en zone rouge, et que nous continuons de profiter, je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'heure gratuite sur le Jard et sur les parkings fermés qui profitent à un public important, y compris d'ailleurs sur le public qui se rend au parking des Arcades, parking centre-ville, qui voit sa fréquentation régulièrement augmenter de mois en mois. Des questions sur ce rapport ? Monsieur Richard.
Sur le rapport à proprement parler, non, puisqu'il s'agit d'une mise en conformité qui va intervenir pour toutes les villes, comme vous venez de le dire, monsieur le maire, concernées par un stationnement payant. Non, je voudrais simplement faire un bref retour en arrière concernant une décision prise par la majorité de ce conseil et qui porte sur une exonération que je considère injustifiable de redevance d'occupation du domaine public, puisque accordée à une entreprise commerciale, situé rue Gambetta, si vous voyez ce que je veux dire. Doit-on rappeler ici, tout à l'heure, vous faisiez référence à votre professionnalisme, que tout citoyen est égal devant la loi et qu'en l'espèce, il m'apparaît que cette dispense est une rupture du principe républicain qui fonde l'équité. Car cette décision crée de fait une différence de traitement entre administrés. Aujourd'hui se tenait la braderie. Aussi, je voudrais poser une question. Les commerçants forains ont-ils été dispensés de taxes ? Les cafés pour les terrasses ne paient-ils pas une redevance d'occupation du domaine public ? Pourquoi cet entrepreneur bénéficie-t-il d'un régime de faveur ? Observons que cette pratique de cadeau tend à devenir une règle au bénéfice de quelques-uns. Notre position, et Jean-Paul l'a évoqué très rapidement, je n'y reviens pas, concernant le stationnement, puisqu'il s'agirait, et notamment de la circulation et des véhicules motorisés dans la ville, de procéder à une refonte globale, c'est notre position. Mais notre avis est que la loi soit appliquée à tous, car il s'agit de justice, tout simplement, dans une bonne administration de la chose publique. Chacun est fondé à exiger que la morale, l'éthique en politique particulièrement, ne soit amoindrie par des comportements clientélistes. Acquitter l'impôt, parce que là, en l'occurrence, c'est un impôt qui est accordé à cette entreprise. Acquitter l'impôt, c'est normal. C'est normal, tout le monde, je pense. Je ne parle pas de ceux qui pratiquent l'évitement fiscal, l'évasion, etc. Je parle des citoyens lambda, c'est-à-dire tels que nous sommes, je crois, autour de cette enceinte. Acquitte l'impôt. Alors donc, on a... ou des occasions lorsqu'il s'agit d'entreprises qui installent un chantier, etc., où on exonère de stationnement la durée du chantier, etc., pour faciliter la chose. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Bon, ça peut se discuter, mais ça peut se comprendre. Là, c'est différent. C'est une opération commerciale qui va privatiser une rue pendant 2 jours et on exonère le gars de payer. Ben, il y a 25 places de stationnement qui coûtent tant la journée. Il devrait au moins avoir ce forfait d'appliquer. Moi, ça me semble normal. Et puis que ce soit reversé à la CCAS ou je ne sais pas qui, ça me semble normal. C'est un principe d'égalité, pas d'égalitarisme, d'égalité devant la loi, qui n'est pas respecté.
Oui, je crois avoir répondu la fois précédente. Oui, et je peux comprendre ton intervention dans le sens où la délibération, j'avais profité de la séance pour apporter quelques précisions puisqu'elle me semblait un petit peu faire l'impasse sur un certain nombre de principes et je pense que nous allons nous rejoindre. C.com fête ses 10 ans dans ses locaux, uniquement dans ses locaux. La rue est piétonnisée pour une opération qui est, elle, axée, on va dire, sur un, la découverte de notre gastronomie, et deux, ben non, mais si tu veux pas de réponse, je te réponds pas.
Dans ses locaux, sauf que la rue est piétonnisée. Alors donc, ce n'est pas que
donc,
dans ses locaux.
Mais
lui,
non, non.
D'activités de commerce avec non. Le chef, etc., etc. Ça, je l'ai bien.
Et ben,
ça nous a été expliqué en commission. Mais ce n'est pas pour autant que j'admets ces explications.
Mais
c'est
en l'occurrence, qui non, mais tu pointes un commerçant. Si on avait voulu aller plus loin, il aurait fallu que finalement, tous les commerçants qui vont profiter de la piétonnisation payent leur droit de place. Parce que là, ça ne sert à rien de stigmatiser ces.com puisque c'est le seul qui ne va pas profiter de l'espace public.
Je stigmatise
pas. Ben si, puisque...
C'est votre décision, votre orientation que je pointe. Ben,
en l'occurrence, ce n'est pas la
non,
première...
Pas de là.
Je ne détourne pas, je réponds à ta question. Il suffit juste que tu écoutes. Donc, ces.com organise une opération avec ses vignerons à l'intérieur de ses locaux et l'espace public est mis à disposition du CRT, Comité Régional de Tourisme, de l'ADT, Agence Développement Touristique de la Marne et de l'Office de Tourisme qui, par leur présence, doivent en même temps faire la promotion de la Champagne en fête. Et pour finalement donner un petit peu plus d'éclat à l'opération, il y aura des dégustations qui seront proposées certaines gratuites, d'autres payantes, par des adhérents de l'Office de tourisme. Et à aucun moment, il n'y aura sur l'espace public, alors il y aura sur l'espace public, une possibilité pour les restaurateurs, effectivement, d'installer des tables et des chaises. On aurait pu faire effectivement payer un droit de place, compte tenu de l'investissement que ça nécessitait, notamment en termes de promotion, d'achat de matériel spécifique pour la restauration en plein air, on n'a pas souhaité le faire. Voilà, c'est tout. Mais ça n'a rien
à... C'est une manière d'encourager ce genre d'initiative qui contribue à l'animation de la ville. Je précise par ailleurs que s'agissant de C.com Champagne, c'est pas C.com Champagne qui sera sur la rue Gambetta et qui aurait donc à payer en théorie les droits de place. C'est les trois organismes de tourisme qu'évoquait Benoît à l'instant. Par ailleurs, C'est comme Champagne a le souci effectivement de s'ouvrir pour ces 10 ans. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on a eu des entreprises et non des moindres qui ont célébré des anniversaires, on a fait en sorte de mettre à disposition le domaine public, surtout qu'il s'agissait d'anniversaires parfois importants. J'ai le souvenir par exemple de la maison Perrier-Jouët qui a fêté ses 200 ans sur la nuit de Champagne. Tous les frais ont été pris en charge par Perrier-Jouët sans qu'ils aient à payer les droits de place parce qu'on estimait que dans la mesure où c'était le soir et ça dérangeait personne, il n'y avait pas lieu d'appliquer pour un anniversaire de 200 ans quand on sait combien cette société, comme d'autres, contribue au rayonnement de la ville. Je trouve qu'il est quand même normal aussi de renvoyer l'ascenseur de temps en temps. Sur ce rapport, on peut... Alors, est-ce qu'on était... On est parti sur un autre sujet, là, parce qu'on était sur autre chose, hein, quand même, quand on est... Oui, monsieur Anger.
Simplement, moi, ce que je retiens de très intéressant, parce qu'il faut toujours chercher ce qui est intéressant, même dans la contradiction dans l'opposition, ce que je retiens d'intéressant, c'est quand même la phrase de Benoît qui dit « la piétonnisation doit optimiser, doit favoriser, je dirais, l'activité ». Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse parce qu'on ne cesse de vous le dire.
Oui, mais pas
que la piétonnisation du centre-ville d'Épernay doit aussi pouvoir être un acte en faveur du commerce. On le dit, on ne cesse de le répéter depuis des années, et vous nous renvoyez dans nos buts. Là, allez, vous rentrez par la petite porte, on va observer, mais je pense que c'est un bon début.
La piétonnisation tuerait le centre-ville d'Épernay. J'en suis absolument convaincu et je m'opposerai toujours à la piétonnisation générale du centre-ville, comme vous l'a demandé. Que maintenant, ponctuellement, lorsqu'il y a des événements touristiques importants, il puisse y avoir de la piétonnisation, ça a toujours existé et c'est très bien. Mais là, on sera quand même fin juin, début juillet. J'imagine un centre-ville piétonnisé au 31 janvier quand il fait un froid de canard, c'est la mort assurée de tous les commerçants. Donc soyons raisonnables en la matière. Des piétonisations ponctuelles, après tout on le fait le jour de la fête de la musique, ça se passe très bien. Quand il y a un événement majeur qui le justifie qu'on le fasse, oui, mais pas systématiquement, sinon on va déstabiliser toute l'activité commerciale. Je rappelle qu'on a la chance d'avoir un commerce qui, globalement, même s'il y a des situations particulières, se porte plutôt bien à Épernay. Il y a encore ces jours-ci, dans le journal, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, une enquête qui reprend, en plus, une enquête qui a été menée par le journal Les Échos, qui nous classe dans les villes les plus dynamiques sur le plan commercial. C'est aussi parce qu'on a trouvé, me semble-t-il, un bon équilibre entre la partie roulée par les véhicules et la partie empruntée par les piétons ou par les modes de circulation doux. Et je pense qu'il ne faut surtout pas en la matière chercher à, en voulant prendre des mesures assez radicales, au bout du compte, déstabiliser l'activité commerciale. Comment ?
Vous nous écoutez sans dire.
Si ça vous fait plaisir.
Une précision, monsieur le maire.
Je vous propose de voter le...
Monsieur le maire, une précision, oui. Si vous me permettez. Puisqu'on a affaire à des hommes de droit, le fait générateur de cette opération, c'est .com, c'est, ou je ne sais pas comment, là, c'est cette entreprise, c'est elle qui déclenche la chose. Et par ailleurs, non, mais dans dans ce qu'on a discuté à la commission, c'était pas précisé autre chose. Et par ailleurs, il ne s'agit pas du tout de freiner ou d'empêcher des initiatives de ce type. Dans mon propos, je veux dire, et dans les écrits qu'il pourrait y avoir et qu'il y aura, il ne s'agit pas de freiner. Il s'agit simplement d'appliquer une règle de droit qui souffre d'exception à condition que ça ne devienne pas une règle. Merci.
Elle est appliquée en l'espèce. Si elle n'était pas, je vous laisse le soin de déposer un recours devant le tribunal administratif si vous jugez qu'elle ne l'est pas. On vote sur le rapport, donc Dezo, avis contraire, abstention. Une, deux abstentions, trois abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3A. Oui, d'accord. Donc deux abstentions, je crois. Deux hauts, c'est ça. Nous passons au rapport 3A. Afin de répondre à leurs obligations juridiques et d'archivage, la ville et la communauté d'agglomération doivent mettre en place un système d'archivage électronique. Je vous propose donc d'approuver le principe de mutualisation de la gestion des archives électroniques entre la ville et la communauté d'agglomération et d'autoriser la signature de la convention de partenariat permettant à la commune de piloter et d'héberger les archives électroniques de la communauté. Les modalités de ce partenariat sont décrites dans le projet de convention qui vous était adressé. Effectivement, il y a une volonté de travailler ensemble sur le sujet parce que nous sommes confrontés les uns comme les autres à une problématique d'archivage. Vous savez que l'archivage est un vrai fléau dans les collectivités parce que le nombre de documents archivés est considérable. Au moment où on arrive à la dématérialisation, il est logique de mettre en place un système d'archivage électronique, ce qui nous facilitera la tâche et permettra évidemment de faciliter les recherches ultérieurement. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec l'organisation d'un forum national du très haut débit. Dans le cadre de l'aménagement numérique des territoires, la ville d'Épernay souhaite apporter son soutien à l'organisation de l'université d'été du THD, très haut débit, qui se tiendra les 13 et 14 septembre 2017 au Millésium, ainsi qu'une contribution financière. Je vous propose de m'autoriser d'autoriser mon représentant à signer la convention de prestation de services avec Idéal Connaissance. Le réseau idéal est un réseau très connu qui intervient dans un certain nombre de domaines. Les problématiques d'eau, d'assainissement, de réseau très haut débit, ce sont des professionnels de l'organisation de forums ou de colloques comme celui-ci. L'université d'été du THD avait lieu l'année dernière à Marseille. Elle arrive aujourd'hui dans la région Grand Est et c'est à Épernay qu'elle posera ses valises pour deux jours. Ça correspondra à une décision importante qui a été prise par la région avec les 7 départements, les 4 de la Champagne-Ardenne, plus les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et la Meuse, qui vont pouvoir bénéficier de l'installation d'un réseau très haut débit fibre optique pour tous les habitants, ce qui est évidemment une avancée importante. Et je ne sais pas si vous avez eu des invitations, je crois, des invitations. Vous avez le programme et ce programme va se compléter et il concernera très directement les collectivités, puisque comme le monde de l'agriculture, comme le monde de la viticulture, le monde des collectivités est de plus en plus impacté par les technologies du numérique et un certain nombre de conférences spécialisées. Alors, ça n'avait pas été distribué encore ?
Non.
Ah ben c'est pour ça. Donc j'allais un peu vite parce que les invitations sont là, on vous les fait passer. Pardon ? Oui. Et un certain nombre de conférences auront lieu, portant notamment sur l'évolution et les impacts des nouvelles technologies sur la gestion des collectivités, ce qui, j'en suis sûr, sera tout à fait passionnant. Monsieur Angers.
Oui, pourquoi c'est la ville qui est concernée ? On est dans du développement économique, à mon sens. Pourquoi ce n'est pas l'agglomération qui est en avant ?
Parce qu'il n'y a pas que les deux, en l'occurrence, soutiendront. La ville ne le fait pas au titre du développement économique, c'est la communauté d'agglo qui le fera. Par contre, dans cette manifestation, il y a bien d'autres aspects que la partie strictement économique. Il y a la partie administration, services publics, dématérialisés. Et donc, la ville a souhaité y participer, considérant que la ville, vous le savez, bénéficie d'un label 5 @ qui lui a été attribué compte tenu de son intérêt et des services développés en matière du numérique. Et à ce titre-là, il nous a paru intéressant de participer à cette manifestation également. J'ajoute que le département y participe, la région y participe, plusieurs départements de la région y participent. Et il me semble que le département de l'Aube, le département des Ardennes y participe aujourd'hui parce que c'est un rendez-vous national et que tous vont en profiter pour faire venir des publics d'étudiants, des publics d'élus, pour profiter de la présence sur ce site de tous les grands opérateurs nationaux, de toutes les sociétés spécialisées en matière de très haut débit, ce qui sera évidemment du plus grand intérêt pour le public. Madame Perrin, Monsieur Lefebvre et Monsieur Durançois.
Alors, c'est bien de porter la question.
Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
J'ai un peu de mal. Je dis, c'est bien de traiter de cette question-là, mais la question du téléphone portable et de la couverture dans certaines zones, ce serait aussi bien de s'y intéresser.
Sauf que ce n'est pas une compétence, c'est une compétence de l'État cette fois-ci, puisque autant les réseaux Internet sont aujourd'hui de la compétence des schémas directeurs départementaux régionaux ou des réseaux d'initiatives publiques, que la téléphonie mobile, c'est la chasse gardée de l'État. Alors évidemment, on ne manque jamais, et moi le premier, d'alerter l'État sur... c'est une relation en fait entre l'État et les opérateurs. Les collectivités ne mettent pas d'argent là-dedans. Les départements mettent un peu pour aider certaines zones rurales à bénéficier de relais. Mais d'une manière générale, le déploiement et l'amélioration du service de téléphonie mobile, c'est l'affaire de l'État avec les opérateurs. Marc Lefebvre.
Oui, plusieurs réflexions peut-être un peu désordonnées. Premièrement, si c'est un événement d'ampleur nationale important, pourquoi la région, notre région, ne subventionne qu'à hauteur de 15 000 euros ? Ça me semble peu, premier point. Deuxième point, bon, la prise de parole du maire est offerte. Très bien, hein, point positif, hein, heureusement. Il manque encore 52 500 euros. S'ils n'obtiennent pas ces 52 000 euros de subvention, comment fait-on ?
Ah ben non, le tour de table est composé de soutien public et de soutien privé.
Oui.
Il y a un certain nombre d'opérateurs et d'intervenants privés qui vont intervenir et qui vont subventionner ce forum, comme ils l'avaient fait les dernières à Marseille et comme ils l'avaient fait les années précédentes.
Oui.
Et vous pensez que comparer Épernay à des villes comme Marseille, etc., pour cette organisation...
Ben c'est plutôt à notre avantage, me semble-t-il.
Oui, oui, oui. Mais... Donc, il faut garder la mesure parfois, hein. Faut pas aller trop loin. Bah,
écoutez, le réseau Idéal est ravi de venir à Épernay. Ils ont visité le Millésium, ils se sont rendus compte que l'équipement était remarquable.
Ça peut faire une retombée au niveau peut-être économique, mais,
oui.
Mais bon, la ville peut être sollicitée souvent à ce niveau-là, hein, et par beaucoup de...
Mais ce n'est pas en soi choquant. Tout le monde devrait se féliciter d'accueillir des salons de rayonnement national. Il se trouve qu'on a un équipement qui le permet. Il se trouve que on bénéficie du soutien d'un certain nombre de collectivités qui considèrent qu'effectivement le choix de l'implantation est judicieux. Donc on ne va pas refuser quand même.
Et dernière chose, sur quel compte sera inscrit ces 12 500 ? Est-ce que ce sera sur les subventions ? Est-ce que ce sera...
Alors là...
C'est important parce que...
Prestations de service, je pense. Achat de prestations, vraisemblablement. Enfin, on vous le précisera. J'avoue qu'on n'a pas étudié cet aspect des choses. Monsieur Durand-Soy.
Pardon. Oui, merci. J'avais posé une question, on va peut-être pouvoir m'apporter réponse lors de la commission. Est-ce qu'Orange participe financièrement à cette rencontre ?
Est-ce que ?
Orange, l'opérateur Orange.
Bah, parce que les éditions précédentes, tous les opérateurs étaient présents, bien qu'ils soient concurrents.
Non, moi, je parle de participation financière.
Ah, ça, je ne sais pas.
Parce que là, il faut quand même savoir que...
Bah, de toute façon, s'ils exposent, à mon avis, ils payent des stands.
Parce que là, c'est une belle publicité qui est faite pour Orange. Comme je l'ai rappelé en commission, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur Épernay, si vous voulez la fibre, c'est Orange et personne d'autre. Orange et... Là, ça fait 2 ans qu'on a la fibre sur Épernay. Pour l'instant, il n'y a pas encore de concurrence. Ce qui peut se comprendre, puisque c'est quand même eux qui investissent dans le réseau. Mais moi, je vois que... Bon, s'ils participent financièrement, j'aimerais bien qu'on me le confirme quand même, et combien.
Ah ben, parce que si c'est oui, pas le cas... on l'aura auprès des organisateurs.
Si mais c'est pas le cas, c'est encore...
Tous les opérateurs nationaux, y compris Orange, y participent.
Parce que là, j'ai
et il va de soi que les stands ne leur sont pas offerts. Donc, ils participent financièrement.
Parce que là, il y a encore du financement, je crois, de la part de Sogetrel, qui est un des plus gros prestataires qui travaille pour Orange. Et c'est vrai qu'Orange est quand même assez spécialiste pour faire travailler les collectivités locales et les sous-traitants, les faire payer à sa place.
Non, donc, mais je pense qu'il y aura un grand...
Si on
je
ne
serais pas surpris qu'il y ait un grand stand
écrite.
Orange et qu'Orange contribue ouais. à la dimension de sa présence sur le salon. Monsieur Richard, qui est en forme ce soir.
Ben, j'ai raté une séance, alors j'essaye de... Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas que... Moi aussi, j'ai un agenda. Donc, non, ce qui est plus sérieusement. Concernant cette délib, là, je suis allé voir sur le site. Alors, effectivement, c'est une entreprise. Enfin, c'est une... Je ne sais pas comment doit-on dire. Enfin, une entreprise qui propose pas mal de prestations assez diversifiées, d'ailleurs, qui fait aussi dans la formation, etc., etc. Moi, j'étais surpris parce que là, c'est marqué... attention de ne pas se laisser abuser. Alors, je ne voudrais pas manquer de respect aux personnes concernées, mais c'est marqué Monsieur Philippe Boyer, président, dûment habilité. Et puis, la présidente, c'est une présidente, Patricia Savin. Alors, il y a peut-être un transgenre, j'en sais pas. Il y a peut-être quelque chose. Il n'y a pas de mise à jour, là. Il faudrait voir. Parce que c'est pas ce qui figure sur le site. Hein. Ça, c'était la première remarque. L'autre, beaucoup plus sérieuse, c'est que je trouve que le montant de la subvention est trop élevé pour ce type de manifestation, même si, évidemment, c'est très bien pour la ville d'accueillir ce genre de manifestation. Merci.
Merci. Je vous propose donc de mettre aux voix ce rapport. Avis contraire, abstention, 3 abstentions, le rapport est adopté. Ah oui, pardon, vous avez un pouvoir, c'est vrai. Nous passons au rapport suivant, rapport 3C, Christian Demangin.
Merci, Monsieur le maire. Vous savez que les documents empruntés dans les médiathèques sont parfois rendus en retard. Il faut donc procéder à des rappels. Le système actuel a permis d'améliorer le respect des délais. Cependant, pour obtenir 2 326 € de recettes au titre des... la gestion des rappels est estimée à 17 350. Donc, ce système appelle des évolutions et je vous invite à approuver l'évolution des tarifs conformément à ce que vous voyez en bas de la page et de la délibération.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Contre. Un vote contre. Le rapport est adopté. Nous passons à l'édition 3D. Christian Demangin.
Nous avons parfois entendu parler, déjà au cours de cette séance, du cinéma Le Palace. Tout le monde connaît sa place dans la culture à Épernay. Vous savez aussi que l'équipe du Palace a décidé de rénover et améliorer le cinéma, ce qui représente des travaux de 4 200 000 euros. Alors, dans les fonds qui sont prévus dans le plan de financement, je me permets d'ajouter 200 000 euros qui viennent du département et qui n'ont pas été indiqués dans la délibération. On ne le savait pas encore. Cela étant, pour participer à cette rénovation et à les encourager, la ville propose de le soutenir à hauteur de 400 000 euros. Et je vous propose, bien sûr, d'approuver le versement d'une subvention de 400 000 euros. Voilà.
Je rappelle que c'est extrêmement précieux de pouvoir compter sur un cinéma de cette qualité, qui non seulement a le souci, à travers ce projet, d'accroître le nombre de salles, de projeter en continu, c'est-à-dire que les séances s'enchaîneront derrière les unes les autres, donc il y aura plus de séances chaque année, chaque semaine et chaque année, qui plus est dans des conditions d'accueil incomparablement supérieures à ce qu'on a aujourd'hui. Et quand on sait combien il est important de résister à la concurrence parfois des multiplexes, des grandes agglomérations qui ont pour effet d'éteindre ou de tuer les cinémas des villes alentours, on peut se féliciter d'avoir ce partenariat avec le Palace qui fait un travail remarquable et qui en plus offre plusieurs labels, ARS, jeunes publics, répertoires ainsi que recherche et découverte, ce qui permet, au-delà des projections à caractère commercial, d'avoir toute une série de soirées à thème qui réjouissent un nombreux public. Monsieur Angers.
Oui, oui, évidemment, je vais voter cette délibération sans difficulté. Simplement, on peut là aussi s'étonner, comme on s'y étonne sur d'autres sujets, qu'il n'y ait pas de participation de l'aglo. Pourtant, on concerne, au travers de ce cinéma, un public qui vient de tout le bassin de vie et de toute la région de Chalandise. Alors, je sais bien que la dimension culturelle n'est pas reprise dans les compétences de l'aglo, mais je crois qu'il y a quand même là aussi une transversalité qui aurait pu faire corps dans un montage financier différent.
Mais il aurait fallu avoir un bout de compétence dans le domaine culturel, ce qu'on n'a pas. Donc, pour éviter un éventuel rejet du contrôle de l'égalité qui aurait à juste titre indiqué qu'aucun équipement culturel est aujourd'hui soutenu par l'agglomération. Il aurait fallu modifier nos statuts. On a préféré le faire comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on avait fait il y a quelques années. Donc, effectivement, si on raisonne comme vous le faites, et vous avez raison de dire, à ce moment-là, il faudrait aussi demander à la Grande Vallée de la Marne, à la région de Dormans, parce que c'est le seul cinéma du pays d'Épernay. Et que son public vient bien au-delà des limites de notre ville. Néanmoins, on a des relations de proximité avec l'équipe du cinéma qui organise beaucoup d'événements strictement locaux, qui profitent aussi, je pense aux personnes âgées, je pense à un certain nombre d'associations qui peuvent profiter de soirées de projection au Palace. On a monté le dossier comme ça parce que la complexité risquait d'être de pénaliser le projet si on avait voulu le monter à une échelle plus importante. Monsieur Lefebvre.
Oui, comme je l'avais annoncé dans l'Épernel Journal, je crois, du mois de mars, que je voterai demain cette délibération parce qu'elle est importante pour notre population et vu le dynamisme du Palace. Mais ce que je reproche, c'est un petit peu la forme. Hein, vous avez dit à cette époque-là, on n'était pas au courant, on l'a appris à nouveau par la presse. Le conseil municipal votera 400 000 euros. Vous n'avez pas dit « je proposerai
si,
éventuellement
si. ». C'est précisément ce que j'ai dit. Je prends à témoin la presse qui était présente. J'ai toujours dit que je proposerai au conseil municipal. En l'occurrence, on pensait le faire au début, au mois de mai, mais la convention n'étant pas prête, et on venait d'apprendre à ce moment-là qu'il y avait des soutiens supplémentaires qui allaient arriver, en l'occurrence celui du département. On a préféré, et puis ça permettait surtout d'avoir la certitude d'un engagement, ne serait-ce qu'au moral de la ville. Ça permettait à l'équipe du Palace de commencer ses travaux qui vont démarrer dans les toutes prochaines semaines. Donc il fallait bien un moment qu'on se positionne et qu'on dise si on allait présenter cette délibération ou pas. Mais je n'ai indiqué que le conseil. Je ne sais pas si c'est une coquille, en tout cas, c'est le sens de mes déclarations. et j'ai comment dire utilisé avec prudence les termes choisis pour justement éviter ce genre de critiques.
Qu'est-ce que c'est que le Dolby Atmos? Comme tu ris, tu vas me le dire. Hein.
Dolby Atmos, ça doit être, c'est les effets spéciaux en termes de son.
Ah bon.
Qui permettent de... Voilà.
Ah, alors là, c'est... Merci.
Ce sont des technologies nouvelles qui donnent plus de sensations encore aux spectateurs. Sur ce rapport, avis contraire. Ah, pardon, monsieur Durançois.
Est-ce que vous pourriez également dire à la presse que vous allez contacter le propriétaire pour lui demander de ne pas trop augmenter les tarifs suite à ces travaux?
On en a parlé avec lui et dans la mesure du possible, il évitera des augmentations. Cela étant, continuer d'observer et de comparer les tarifs ici et ailleurs.
Je pense qu'il a le souhait de ne surtout pas faire fuir la clientèle.
Surtout pas faire fuir, oui.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons. Christian Demangin, rapport 3E.
Non, vous savez que l'an dernier a eu lieu une première édition du Festival de films latins, Épernay, organisé par l'association Fasciné. Le bilan a été ce qu'il a été. Mais... vous vous renseignerez, ouais. Vous l'avez vu passer. Il est donc envisagé de faire une deuxième édition. Et pour cela... Alors, deuxième édition, remarquez, vous le voyez dans la délibération, le Palace et le Salman Hazard seront également partenaires. Donc, la ville mettra à disposition de l'association le Salman Hazard, l'hôtel de ville pour un cocktail particulier. Mais voilà, c'est donc... quelques propositions que vous voyez dans la convention et que je vous propose d'approuver.
Monsieur Durançois.
Juste en parlant du Salman Hazard, tout à l'heure, je disais que certaines personnes me disaient que vous n'étiez pas trop à l'écoute. D'autres personnes m'ont dit c'est merci à la mairie pour l'organisation de la conférence de Nicolas Vanier au Salman Hazard qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je transmets.
Au théâtre d'Orzia, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas l'association.
C'était pas au Salman Hazard.
Merci. Pas d'opposition sur ce rapport, monsieur. Votre micro, monsieur.
Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Voilà, parce que même si c'était une première, une expérience, etc., sans doute, de mon point de vue, elle mérite d'être poursuivie et améliorée, bien évidemment, mais parce que c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai participé à plusieurs séances, et voilà.
C'est bien parce qu'on pense que c'est un projet intéressant que nous réinstaurons cette année l'aide. Quant à l'aide financière, il y a des choses qui s'appellent valorisation. Le théâtre et le personnel mis à disposition, ça représente quand même quelque chose.
Hein. Madame Perrin.
Est-ce que c'est ouvert au collège et au lycée pour les classes des enfants?
Alors, il y aura même cette année, justement, nous avons insisté. Grâce à la collaboration avec le Palace, il y aura des séances de collège, d'école, voire de lycée.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3F. Christian Demangin.
Petite convention. Vous voyez, l'hôtel Ibis souhaite contribuer au développement et à la diffusion des événements liés au festival Voilà l'été. Et elle... appliquera un tarif préférentiel aux artistes hébergés pendant ce festival. Je vous propose donc de signer cette convention. Pardon.
Nous passons au rapport 3. Avis contraire sur ce rapport. Abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3G.
Alors, c'est une autre aide, cette fois, un mécénat du Champagne Lecomte, père et fils. Pour une somme de 500 euros afin d'aider à la brochure patrimoniale dans les journées européennes du patrimoine.
Merci. Je ne sais pas qui présente le rapport 3H concernant...
Alors 3H, Pierre m'a donné son pouvoir. Ce n'est
une fois n'est pas coutume, donc Christian va parler de
et
sport.
La culture et le sport sont très liés. Et surtout qu'il suffit de lire la délibération. Et vous voyez donc que pour la Fédération française de roller, il est question de leur mettre à disposition quelques, en particulier cette fois-ci, le gymnase Beethoven, comme vous le voyez, à la page 5. Et je vous propose donc d'approuver ce projet de convention.
Sachant qu'il s'agit du renouvellement, hein, d'une,
c'est un renouvellement, oui.
D'une utilisation régulière par un club qui a d'excellents résultats. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3I, Benoît Moitier.
Oui, merci Monsieur le Maire. Chers collègues, la ville d'Épernay a décidé d'aménager une aire de service accessible 24 heures sur 24 et toute l'année aux camping-caristes. Bien évidemment, ce sont des équipements qui nous manquaient et il vous est donc proposé donc, d'approuver le tarif d'utilisation de cette future aire de service, à savoir 3 euros TTC. Donc le site d'implantation, on est situé à l'entrée nord d'Épernay, donc juste après le giratoire de la RD 2051, entre celui-là et celui de l'avenue Joffre, donc là où était situé avant le panneau RIS, le relais touristique, d'information touristique. Et donc, en l'occurrence, la mise en service est prévue pour la seconde partie de l'été.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4A, Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous propose de procéder à la désaffectation, au déclassement ainsi qu'à la cession d'une emprise d'environ 46 mètres carrés à Monsieur et Madame Mingre. Cette emprise dépend du domaine public mais est incluse par erreur dans leur propriété. Cette cession se fait au prix de l'estimation de France Domaine, soit 60 euros le mètre carré. Et les frais de géomètre et d'actes notariés seront supportés par les acquéreurs.
Des questions ? Oui, monsieur.
Oui, je l'ai dit en commission, hein, ça a été une utilisation gratuite pendant X années du domaine public. Ça a été création d'un mur sur le domaine public et ça...
Mais il y a eu changement de propriétaire.
C'est pas très cher. Vu, en fin de compte, on légalise quelqu'un qui occupait le domaine public.
Quand on fait un mur, on garde bien ses...
C'est pas lui.
C'est pas lui, c'est le... Il n'est pas propriétaire depuis très longtemps.
C'est un propriétaire.
Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est voté et je vous en remercie. Rapport 4B, Jacques Fromme.
Chers collègues, la communauté d'agglomération Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne effectue des travaux de réhabilitation des anciens locaux de Mairie 2 afin d'y installer une pépinière d'entreprise. Je vous propose, dans le cadre des travaux de rénovation du site, d'autoriser la communauté d'agglomération à occuper à titre gratuit 10 places de stationnement afin de permettre l'installation de la base de vie des entreprises intervenantes.
Oui, on précise que ces travaux auront lieu à partir du mois de septembre. Il y a un curage qui a été fait ces dernières semaines. Et dès le 1er septembre ou fin août, les travaux démarreront pour une durée d'environ 4 mois. Pas d'opposition sur ce rapport ? Oui.
Quelle est l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise qui fait les travaux a déjà été choisie ?
Je ne pense pas. Les marchés ne sont pas encore
non,
attribués.
Non, j'ai compris que c'était la communauté. De...
Oui, ils ne sont pas encore
quand
attribués.
Quand même. Mais on pourrait le savoir. Non, mais voilà, c'est tout.
Pas à ce jour. On ne l'aura même pas au conseil de cette semaine. Je pense qu'on aura le résultat voilà, au conseil de fin août.
Merci.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous en arrivons au rapport 5 concernant les délibérations prises par le maire par délégation du conseil municipal. Chers collègues, avez-vous des explications à demander sur ces différentes décisions ? Marc Lefebvre.
Oui, je reviens sur le ballon captif. Oui, vous l'avez annoncé un coup en public, etc. On n'a jamais discuté en commission d'un fonctionnement, d'un coût, ce que ça pourrait créer comme répercussion, etc. Je crois que c'est un projet personnel que vous lancez, mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Là.
Non, attendez, on en a parlé au budget.
Ah oui, oui, oui.
Bon, il n'y a pas court, une question hein. sur le sujet. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans cette enceinte. Quand même.
Vous pensez que ça peut passer en cadre contrat de ruralité?
Oui.
Oui.
Oui, puisqu'on l'a fait figurer au titre
de ça. On remplit les rurales.
Non, mais le contrat de ruralité ne concerne pas que les espaces ruraux. Il concerne les bassins de vie comprenant des espaces ruraux. Ça a été présenté dans le contrat qui était signé avec le préfet. Ça a été accepté.
Parce que là, vous allez avoir quand même un aménagement. Donc là, ça coûte 114 472. Mais il va y avoir des aménagements sur l'esplanade. C'est le ballon qui coûte 114 000.
Non. Le ballon coûte bien plus cher que ça. Non, là, on parle. Les subventions portent sur les aménagements.
Aménagement.
Le ballon va être acheté et installé par la SEM, qui va être créée, qui va emprunter pour acheter ce ballon.
Oui.
Mais là, on parle bien des aménagements paysagers qui entourent cet équipement.
Et le coût du ballon ?
Le million, tout compris. Hein. Tout compris pour une exploitation
sur 14-15 ans.
On est à 1,5 million.
C'est le chiffre qui avait été annoncé il y a quelques mois.
Oui. Donc, quand on avait eu une réunion avec Jacques.
Ce sera la SEM qui va donc.
Qui va emprunter. Qui
après,
va...
est-ce qu'on pourra revenir. Les aménagements par rapport à l'esplanade, comment on va faire ensuite quand on va aménager définitivement l'esplanade?
Alors,
le ballon ira ailleurs?
Non. Pourquoi? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Non, précisément, on commence par aménager le ballon, par aménager le site et installer le ballon. Et quand on parle d'aménagement de l'esplanade, c'est sur d'autres espaces qui ne sont pas dans le périmètre du ballon. Donc là, on revient sur un financement classique et sur un portage classique.
Mais donc, dans le futur aménagement de l'esplanade, il y a déjà cette contrainte.
Oui, c'est la raison pour laquelle, dans l'étude qu'on a confiée à un urbaniste, on lui a indiqué dedans qu'il fallait positionner un ballon captif avec ses aménagements, à charge pour lui de déterminer l'usage des autres espaces pour rendre les différentes choses compatibles. Stationnement, jardin public, ballon, équipement hôtelier, espace de jeu pour enfants, enfin il y a toute une série de choses et lui doit nous faire des propositions d'aménagement du site pour rendre possible tout cela. Parce que si on avait mis le ballon n'importe où, on aurait obéré des possibilités d'aménagement futur. Donc son étude porte bien sur le positionnement du ballon et ses conséquences sur l'environnement.
Et vous avez eu cette idée à partir d'un exemple concret?
Pardon?
Vous avez eu cette idée à partir d'un exemple concret que vous avez vu dans un autre pays?
Il y en a plusieurs, d'abord en France. Il y en a la personne qui va s'associer à nous dans ce dossier doit en exploiter une quinzaine dans le monde. Et ce qui nous a guidés vers cette orientation, c'est la notion de paysage. On cherchait quelque part un belvédère pour admirer les paysages du Champagne et on s'est posé la question, on avait envisagé le Mont Bernon, donc il y aura des aménagements sur le Mont Bernon, mais il était difficile d'imaginer quelque chose au-dessus du Mont Bernon parce qu'il y avait des contraintes de vent qui ne permettaient pas un ouvrage de ce type et de fil en aiguille, on s'est orienté vers cette solution qui fonctionne sur plusieurs sites UNESCO dans le monde et qui donne un résultat probant, parce qu'évidemment, c'est en soi une attraction touristique.
Oui.
Quand on parle de tourisme familial en Champagne, il va de soi que monter dans un ballon et grimper à 150 ou 200 mètres d'altitude, tous les gens qui passeront à Épernay voudront vivre cette expérience, parce qu'on ne la vit pas souvent, et ça permettra d'avoir une vue sans équivalent à 360 degrés sur les paysages de la Champagne, classés au patrimoine mondial. Donc il y a quand même un lien entre tout ça. L'objectif, c'est de faire une attraction supplémentaire.
Monsieur le maire, je pense que sur de tels projets, on l'a dit, on le redit, on devrait travailler en commission, être au courant des détails. Là, en commission, on ne fait que lire la délibération et puis on regarde un tel ou un tel, je ne citerai pas, il n'y en a que quelques-uns qui posent des questions et après c'est terminé. Même les membres de votre majorité repartent et n'ont pas des réponses parce qu'ils n'ont pas posé des questions, ils n'ont pas osé. Et ça,
mais
c'est
non,
dommage.
Mais... Attendez, ils sont parfaitement au courant du dossier.
La dernière commission, j'ai demandé à un membre, est-ce que tu as compris tout ? Elle m'a dit non.
Non, mais attendez.
Je ne t'ai pas posé la question, mais je n'ai pas osé.
Ils sont parfaitement... On a eu des réunions spécifiques sur ce sujet. On en a parlé au moment du budget, puisqu'il y a une inscription budgétaire qui est quand même... qui a été prévue. On a, dès le mois de janvier, on en parlait dans le discours des orientations budgétaires et dans le discours du budget. Bon, maintenant, effectivement, s'agissant du positionnement du ballon, de son aménagement, on attend ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir l'étude qui a été commandée, pour pouvoir... rendre public les plans d'aménagement du site, tout simplement parce que ces plans d'aménagement aujourd'hui, ils n'ont pas été encore réalisés, tout simplement parce qu'on ne connaît pas les autres implantations situées autour du ballon. Enfin, il n'y a pas de... On en a parlé abondamment dans la presse, il n'y a que vous qui semblez découvrir le...
Ah oui, non, mais il n'y a que vous qui découvrez.
Il n'y a que vous qui semblez découvrir le sujet. Hein. C'est parce que la presse fait sans doute bien son travail. Il n'y a pas de collusion entre la presse, je parle sous le contrôle de chef d'agence, il n'y a pas de collusion entre la presse et la ville. Bah. C'est les réunions techniques, oui, qu'on fait tous les 15 jours, ou tous les 3 semaines. Non, non, mais quand vous dites que les membres de mon équipe municipale ne sont pas au courant... Oui, oui. Non, mais quand Marc Lefebvre dit que personne n'était au courant autour de la table à part moi, enfin c'est...
Non, 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 non,
non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, je vous invite, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais d'abord vous souhaiter de bonnes vacances, même si... Ah oui, vendredi, c'est vrai. Vendredi à 18h. Je vous souhaiterai les bonnes vacances à ce moment-là. Et pour certains, on vous se revoit jeudi soir pour le Conseil communautaire. Sachez d'ores et déjà donc, oui, que c'est à 18h vendredi. 18h. Hein. Ça ne devrait pas durer très longtemps, puisqu'il va y avoir un rapport à l'ordre du jour.